Créée en 1989 après la chute du mur de Berlin, La Bastille J'y suis est devenue au fil des années une émission culte de France Inter. J'aurais pu dire une émission phare. Mais c'est une émission qui se défie des cultes et se moque des phares de la pensée. Définir La Bastille J'y suis n'est pas simple car là-bas est partout. Émission qui réfléchit, s'indigne, s'amuse, prend du plaisir et en donne. Elle visite Paris avec une bande de filles de banlieue, se fait raser dans le Panchir, rencontre le patron de l'entreprise israélienne qui fabrique les barbelés pour le mur, un homme qui fabrique une soucoupe volante en bois et des échangistes dans un club au bois. On y donne les poèmes de Prévert, le sommaire du monde diplomatique. Qu'on le veuille ou non, on y croise des féministes voilées, des prostituées heureuses, des homosexuels mariés. On enterre dans la peur un habitant de Grosny et à Dubaï, on découvre des milliardaires inconscients et les chaussures de cet ouvrier indien suicidé la veille. Ce sera aussi un bordel allemand pour femmes, Valentine, petite rescapée rwandaise, un criminel de guerre nazie dont l'émission perturbe la paisible retraite, cet homme qui a vu son amant dévoré par les chiens dans un camp à l'époque du Triangle Rose, de formidables vieilles dames russes qui luttèrent à Stalingrad et les derniers juifs du Yémen. Là-bas, si j'y suis, des reportages et des réflexions, donc, sur l'actualité, mais pas un coup d'œil rapide, un regard qui s'attarde et observe. C'est une voix surtout qui réjouit les résistants, console les frustrés, redonne courage aux déçus, la voix de Daniel Mermet aux commandes de l'OVNI radiophonique. Pilote avisé mais exclusif, contesté sur sa droite libérale et sur sa gauche molle, contesté par des libertaires ou des féministes, par vous et moi en somme, et même de l'intérieur du vaisseau. Il se dit, difficilement, que travailler avec Mermet, c'est travailler sous ses ordres. N'empêche, cette voix-là est grave, amicale, et le bon rire de Daniel réjouit souvent dans des circonstances difficiles. Il suffit à faire oublier des crises d'autorité ou de colère qui explosent, dit-on, hors antenne. C'est en tout cas une équipe, bien sûr, qui fabrique cette belle émission, et ceux et celles qui en font la force sont les auditeurs. Jour après jour, ce que nous écoutons d'abord, ce sont eux, c'est-à-dire nous, associations, syndicats, individus en pleurs après une émission émouvante, choqués par des propos érotiques, réjouis, des auditeurs qui lisent un poème, témoignent, remercient, appellent à des manifestations. Depuis un an, un peu partout en France, les auditeurs se retrouvent à la Cambrousse ou dans une grande ville, autour d'un verre, et discutent, et c'est le cas ici. Avec les auditeurs modestes et géniaux du Havre, il sera donc question ce soir de France Inter, mais surtout de leurs rencontres locales, tous les mercredis, de leurs projets, leurs envies, ce qui les motive. Radio Apple Pie, émis public crétine et immodeste, numéro 96, ça tourne.
Je ne vais pas faire le pendant négatif de Juliette et faire une petite intro, mais ça va pourtant être ça quand même. Ce soir, nous accueillons, en plus de nos amis du repère de là-bas, si j'y suis du Havre, notre ami aussi, Théo, du collectif contre toutes les formes de discrimination. Nous allons faire ensemble un compte-rendu modeste.
Mais forcément génial.
Mais forcément génial, bien sûr. Du pique-nique qui a eu lieu au mois d'août sur les pelouses de Cocrioville, qui rassemblait aussi bien les habitants du quartier de Cocrioville que des autres quartiers, des associations, des militants, des gens de passage, des gens qui avaient envie d'être là et qui ont passé la journée avec nous. Et c'était pas une mauvaise journée, loin de là. Et bah comme d'habitude, hein, nos adeptes et fidèles chroniqueurs.
Oui, ok, ça fait plaisir de vous revoir.
Ben, oui. Ils sont surpris parce qu'on les appelle d'habitude les chroniqueurs, donc tout d'un coup.
Ah ouais, non mais là, voilà, c'est la première. On essaye d'être sérieux quand même. Voilà. La première de la rentrée. Donc bonjour Ludo et bonjour Pascal.
Bonjour Juliette et Letty.
Bonsoir.
Bah oui, on est content de se retrouver ici au bar de l'Apple Pie, donc pour cette émission de rentrée qui a été effectivement retardée. Vous nous réclamiez, n'est-ce pas? Oui, on vous a manqué, mais bon, voilà. Il y a eu des aléas, hein, des choses de la vie qui font que on ne commence qu'aujourd'hui, le 1er novembre. Donc, Letty l'a dit, on va parler avec Théo du pique-nique solidaire de cet été, mais dans un premier temps, on va faire un petit tour de choses qui nous ont plu ou choqué ou de points d'actualité. Tous les quatre, voilà, comme des grands. Alors, qui veut commencer ? Ludo, tu avais des choses à nous dire, je crois, sur une candidate à la présidentielle.
Oui, enfin, absolument pas de révélation, mais donc, puisque c'est l'émission de rentrée, faisons la transition avec cet été absolument flamboyant, sous le signe du ballon rond, etc. Et puisqu'on est parti, là, pour quelques mois de pré-campagne, puis de campagne électorale, avec des débats houleux et absolument passionnants, j'en suis sûr. Un petit mauvais coup de la gauche, en l'occurrence, éventuellement notre future présidente, à propos, justement, du phénomène de l'été. Zidane, bon, on va pas revenir dessus, d'ailleurs, on s'en fout quand même assez très largement, on peut le dire. Cette petite réaction de Ségolène Royal, donc qui ménage la chèvre et le chou tout en caressant les futurs bourreaux, dirons-nous. J'ai vu un homme d'une grande intensité, d'un grand souci éducatif. Il a exprimé du regret à l'égard du spectacle de la violence donnée aux plus jeunes. Il en est conscient et s'est excusé. Dans le même temps, elle soulignait sa texto capacité à défendre farouchement les valeurs auxquelles il tient profondément, et en particulier le respect dû à sa mère, le respect dû à sa sœur. Je crois aussi que c'est exemplaire. Alors, étant donné que Ségolène Royal est peut-être notre future présidente, on l'imagine assez bien dans le courant de son mandat avoir, hélas, affaire à un crime d'honneur, se répandre en lamentation dans les médias. C'est odieux, c'est inhumain, c'est abominable, c'est inqualifiable. Et on imagine évidemment le coupable lui répondre, ben oui, ma vieille, mais l'honneur, tu sais ce que c'est. Hein.
Merci, je crois que les féministes t'en sauront gré, Ludo.
Pour une fois. Effectivement.
Bah oui, pour une fois, bah écoute, on est ravis. On a des choses difficiles à dire, en fait, des nouvelles à donner de copains. Je pense que la plupart des auditeurs fidèles, modestes et géniaux, je ne sais pas, de Radio Apple Pie se souviennent de Carlos et de Sofia. Qui était venu, Carlos Manzon et Sofia Olovitch, qui étaient venus nous parler de ce qui se passait dans leur ville de Union Hidalgo, dans la province de Oaxaca. Et la province de Oaxaca, malheureusement, en ce moment, vous avez dû en entendre parler, il se passe une répression extrêmement féroce contre les populations qui, tout simplement, revendiquent des droits basiques. Notamment, depuis le mois de mai, il y a une grande grève des professeurs. Alors ne me demandez pas ce que signifie ce sigle, mais ils sont regroupés au sein de l'APPO. Et bon voilà, malheureusement ces derniers jours ça prête moins à sourire. Justement on a des nouvelles par Manu du collectif de soutien aux Indiens du Chiapas, qui est précisément là-bas et qui nous envoie des emails pour nous tenir au courant. Et donc ce qu'on tenait à dire, c'est que il précise bien que la population n'est pas armée, ne se défend pas avec des armes à feu, dresse des barricades, certes, contre les forces de répression du gouverneur de la province de Oaxaca. Parce qu'en fait, bon, on va pas rentrer dans tous les détails de comment fonctionne le Mexique, mais il y a l'État fédéral et il y a les différents gouverneurs des provinces. Et en fait, les gens se révoltent contre beaucoup de corruption, et la réponse est assez féroce, puisqu'il y a eu de nombreux morts, dont un reporter d'Indy Media qui a été assassiné vendredi dernier. Voilà, donc
Tout ce qui concerne en fait un peu l'historique de ce mouvement-là, on vous invite à aller écouter les précédentes émissions qui ont été faites sur le sujet, qui évidemment vous en diront beaucoup plus sur les prémices de ce mouvement. Ce qui est le plus important pour l'instant, c'est évidemment de continuer à s'informer et de manifester notre soutien aux personnes qui sont là-bas, à Oaxaca, pour lesquelles on a fait aussi une émission ici. Et nous, on vous tiendra au courant aussi régulièrement par l'intermédiaire de Manu, qui est sur place, qui va y être au moins jusqu'au mois de mars. Et qui d'ailleurs pendant l'été a dans les locaux d'AC a monté un café un peu alternatif aussi pendant la période estivale, où avec les personnes qui étaient de passage ils ont fabriqué et peint une fresque, et en fait la fresque a été emmenée là-bas pour être offerte aux parents d'Alexis Benouma, qui avait été assassiné l'année dernière. Donc voilà, moi j'avais un autre petit coup de gueule, en fait, moi qui ne suis pas végétarienne, par exemple, j'ai été complètement choquée par le comportement criminel du roi d'Espagne face aux ours, parce que en fait, monsieur le roi d'Espagne, quand il va voir son copain Vladimir Poutine, il sait pas quoi faire d'autre que de persécuter un ours. Qu'ils ont rendu ivre en lui faisant boire de la vodka évidemment frelatée, et du coup le pauvre ours étant complètement ivre évidemment était complètement inoffensif sous leurs balles, et voilà, le roi d'Espagne contre qui on a le droit de rien dire en Espagne, bah lui quand il va voir son pote Vladimir Poutine, il s'amuse à massacrer des ours
jusque dans les chiottes
aussi.
Probablement. Pascal.
Oui, bah, coup de gueule, tu... si on peut dire. Ouais. Enfin, c'est pas nouveau. Juste dire qu'il y a une. Bon, pas dire collecte, mais on va dire appel à généraliser tout le monde par le réseau Éducation sans frontières sur le Havre, entre autres, pour un certain nombre de familles qui sont. Leurs dossiers sont favorables au niveau de l'intégration en France, sauf qu'on leur demande de payer quand même 200 euros, je crois, pour la visite médicale et 180 euros pour payer les papiers. Quand les gens bossent pas. C'est difficile quand même de payer ça. Ne serait-ce pas aussi une sélection quelque part ?
Alors voilà, y a un certain nombre de familles au Havre pour lesquelles il y a eu des avis favorables de la part de la sous-préfecture pour leur accord au séjour sur le territoire. Pour autant, pour pouvoir bénéficier d'un premier récépissé de titre de séjour, il faut qu'ils passent une visite médicale dont le montant s'élève à environ 200 euros. Qu'ils payent un timbre fiscal, qu'ils passent une, qu'ils aient un visa pour certains pays, qu'ils payent un passeport. Donc, faut savoir que un passeport, ça peut aller de 50 euros à 250 euros selon le pays. Et quand il s'agit de familles de 3, 4, 5 personnes, on multiplie par autant le prix.
C'est par personne.
Voilà, c'est par personne, c'est pas pour la famille. C'est par personne. Donc, si on est une famille de 5 personnes qui vient de Mongolie. Bah par exemple pour le moins cher 50 euros le passeport, donc déjà 250 euros de passeport plus 5 fois la visite médicale, on arrive à 1 000 euros plus un visa, 190 euros, donc je vous laisse compter.
D'accord, alors donc Pascal, par rapport à ça, tu voulais dire qu'il y avait une souscription?
Oui, une souscription qui est actuellement valable, mais il faut faire vite parce que bon, apparemment il y a de l'urgence quand même quelque part. Donc moi j'ai des petits bons si jamais vous voulez adhérer
dès ce soir
voir,
pour
après
soutenir.
L'émission éventuellement. Bon, c'est pas forcément les grosses sommes, hein. Vous faites ce que vous voulez. De toute façon, il n'y a pas d'imposition spéciale. Donc voilà, à vous de voir.
De toute façon, on vous donnera tous les endroits où vous pourrez trouver ces bons de souscription, le plus rapidement possible, évidemment. Donc si ce n'est pas ce soir, dans les jours qui viennent. Et vraisemblablement, Roselyne Mabi du réseau Éducation sans frontières est en ce moment en Palestine. Je crois qu'elle n'est pas encore revenue. Elle était à Naplouse. On salue son courage parce que, franchement, elle a déjà vécu lors de sa dernière mission des circonstances très, très difficiles dans une manifestation contre le mur. Et elle est repartie quand même. Bravo, Roselyne, on pense à toi. Et donc, ça sera sûrement notre invité pour nous parler de la lutte des sans-papiers et de Réseau Éducation sans frontières bientôt. Alors, comme vous l'avez remarqué, on fait une première partie magazine, on innove, hein, cette rentrée avec des petits tours d'actualité entre nous. On va écouter un morceau très court aussi, parce qu'on a décidé de remettre à l'ordre du jour les groupes havrais locaux, qu'on aime bien. On va écouter Horror Show Destruction. We'll be right back. puisqu'on a dit qu'on mettait à l'honneur à nouveau les groupes à vrai, on va écouter les Bumblebee qui viennent eux aussi de sortir un album. Et comme par hasard, on a choisi un morceau sur lequel joue François Lebas.
Such a mellow fruit. Life is not such a mellow fruit. I just took another route without you. And I receive your letters. Don't wait, you're recalibrated.
Ink and Paper, donc c'était les Bumblebee trio à vrai bien connu, qui ont déjà donné quelques concerts pour la sortie de cet album, qui sont à l'Hermès au Havre, que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est le samedi 10 novembre. Non, c'est un vendredi le 10
vendredi.
Novembre. C'est un vendredi, en effet. Puisque le 11 novembre, j'en profite pour le dire, nous serons en public au camping de Montjon, qui, je crois que les AMG en parleront tout à l'heure, connaît de grandes difficultés, qui fait une journée porte ouverte, donc le 11 novembre. Et nous serons là pour une émission où, j'espère, nous recevrons non seulement les gens de Montjon, résidents et gérantes, mais aussi les gens, j'espère bien, les résidents du camping de Saint-Jouin, Bruneval, qui ont aussi des grandes difficultés. Voilà, voilà. Donc, Bumblebee, le titre de l'album, je crois que ça s'appelle Sweet Life, avec un point d'interrogation. Et voilà, non, tous les morceaux sont excellents. Bien sûr, on n'a pas résisté au plaisir de passer le morceau sur lequel François jouait un peu de guitare. Mais franchement, vous pouvez acheter l'album les yeux fermés et les oreilles ouvertes. C'est ce qu'on dit en général. Hein. Et,
Ça dépend, si tu veux mettre l'album dans le truc, les yeux fermés, c'est pas un peu difficile.
Il reconnaît directement le chemin de la platine, tellement il est bon cet album. Et donc, voilà, donc dans peu de temps, nous allons... recevoir autour des micros de Radio Apple Pie les AMG du Havre, des repères de la basse IGSU du Havre, et pour l'instant avec Letty de Radio Apple Pie, car elle était là-bas, ainsi que Dom et Coco, et avec Théo du collectif 76 contre les discriminations. On va vous demander de nous faire un petit point, parce que nous, malheureusement, pour différentes raisons de coordination, d'organisation, on n'a pas pu être là à ce pique-nique, de nous raconter si ça s'est bien passé, si ça a répondu à nos attentes, s'il y avait du monde, enfin voilà.
De mon point de vue, c'était plutôt une journée réussie, puisque je trouve que ça a répondu aux attentes qu'on avait, dans le sens où il y a eu beaucoup de personnes qui sont passées, donc aussi bien des personnes, comme je disais tout à l'heure, de diverses associations. Il y avait Il y avait des gens de AC qui étaient là, des gens du réseau Éducation sans frontières, il y avait des gens de Femmes solidaires, il y avait des gens de du collectif,
il y
avait Nafid, Yacaré qui est venu, il y a eu des individuels aussi qui sont venus bah, par solidarité, par amitié avec les diverses personnes qui étaient là. Il y avait des gens du quartier qui avaient été informés au préalable justement par des assos de quartier. Il y a eu beaucoup d'enfants, moi j'ai trouvé, qui alors qui sont venus, qui ont investi ce lieu parce qu'ils le connaissent déjà et qui sont venus y jouer, mais qui arrivaient là, nous ont vus avec une table, avec à manger, avec à boire, nous ont dit mais qu'est-ce que vous faites là, est-ce qu'on peut manger, bah bien sûr tu peux manger, donc ça a vraiment donné l'occasion de discuter, et puis vraiment une ambiance sympathique où on était tous allongés sur les pelouses en train de discuter par petits groupes. Il y a eu les ateliers d'art plastique qui ont super bien marché et on s'est vite retrouvé un peu à court de feuilles de peinture qu'il a fallu diluer parce qu'il y a eu énormément de dessins de peinture de fête avec les jeunes. Et je pense que, enfin, j'ai l'impression que tout le monde est reparti avec un sentiment assez positif et de se dire, bah pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça avant? Est-ce que ça va se refaire? Quand est-ce que ça va se refaire? Et même si au début les gens qui arrivaient, qui étaient pas au courant de ce qui se passait de cette manifestation-là, ils arrivaient avec un regard un petit peu, enfin pas suspect, mais en se disant mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ces gens-là? En plus ils accrochent des banderoles avec des noms qu'on comprend pas dans les arbres. Et ça s'est fini que, bah non, des gens qui se connaissaient pas 2 heures auparavant, elles sont reparties en échangeant des numéros de téléphone ou en disant, bah ouais, ce serait bien qu'on se revoie. Et moi, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était une journée sympathique. Il y a eu aussi des collègues qui sont venus avec des personnes handicapées. Et ils sont arrivés un petit peu tard dans l'après-midi. Donc c'est un petit peu dommage parce que je dirais que c'était pas... au gros de la de la manifestation, c'est pas là où il y avait le plus de monde et où il y aurait pu y avoir encore plus d'échanges. En plus, on n'avait plus grand-chose à leur offrir à boire et à manger parce qu'on avait été complètement dévalisés. Et puis un des moments aussi qui a été super sympa, c'est quand Corcovado est venu. Donc Corcovado, c'est un groupe de percussion brésilienne qui ont mis le feu sonore sur la pelouse de Cocrioville. Et puis il y a eu une déambulation dans les rues avec le groupe et puis des gens derrière pour ameuter un peu les gens. Et c'est vrai que ça a été aussi après le passage de Corcovado dans les rues que les gens ont commencé à arriver un petit peu plus en masse des quartiers. Donc voilà un peu moi ce que j'ai à en dire du souvenir que j'ai de cette journée-là.
Théo pour l'instant.
Alors. Oui, il opine de la tête.
Non, mais tu as le sentiment. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Laetitia. C'était d'abord il a fait beau,
ouais.
Ce qui était quand même.
C'était pas gagné.
Ouais, voilà, ce qui nous inquiétait beaucoup parce que la semaine, si je me souviens bien, c'était pas le top du tout. Donc déjà il a fait beau, c'était une belle journée. Moi j'opinais effectivement de la tête parce que je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Laetitia. Je pense que Diallo il a pas pu venir ce soir pour en parler. Je pense que ça aurait été lui qui aurait été le mieux placé pour en parler puisqu'il a il s'est investi le plus dans cette manifestation là et puis il a essayé vraiment de faire en sorte que ça réussisse. Ce qui était intéressant aussi, il y a eu un petit concours de pétanque qui était très sympathique.
Oui, c'est
qui
vrai.
A permis de,
j'ai pas du tout participé.
Qui a été un support intéressant aussi à la rencontre. Donc ouais, il y avait vraiment plein de choses qui étaient des supports à l'échange et à la rencontre qui étaient vraiment vraiment positives quoi. Donc moi je trouve que c'était une belle manifestation, toute simple quoi, toute simple. Sans prétention, mais avec plein de gens et puis qui se mélangeaient effectivement.
Pas de déception, pardon, par rapport au fait, parce que c'est vrai que j'ai réécouté cet après-midi pour essayer de me remémorer l'émission à laquelle vous aviez participé, enfin dont vous étiez les invités de toute façon, le collectif 76 contre les discriminations, et pendant laquelle l'idée a un peu germé, parce que c'est vrai que d'hommes ici, de la Pelpaille, en novembre, quand il y avait effectivement ces révoltes dans les banlieues, et de la répression féroce et absurde qui s'est passée. Et puis bon, je réécoutais ça, c'est vrai, ça fait un an, et puis on oublie, quoi. Les hélicoptères dans le ciel, enfin bon, voilà, tous ces CRS, toutes ces choses-là, qu'on se disait effectivement, il faudrait faire des choses positives, que vous avez vraiment saisi la balle au bon, et voilà. Vous n'avez pas été déçu, vous, du collectif, par rapport à cette première manifestation où ça a été une...
Non, je pense pas qu'on ait été déçu. Bon, le collectif, c'est encore un tout petit collectif, hein. Donc, les quelques personnes qui l'animent étaient plutôt contentes, quoi, même du fait que au début on a eu un petit peu peur parce que il y avait peu de monde au début, les premières heures, on va dire, et puis en fait c'est venu progressivement avec des gens qui venaient même d'autres quartiers. Moi j'ai rencontré des gens du quartier de l'Eure, il y avait vraiment des gens qui sont venus de partout, dont on savait pas trop comment ils avaient eu l'information, parce que on n'avait pas eu le temps de faire énormément de publicité, mais non, c'était vraiment positif. Bon, après, je crois que l'idée qui a émergé, c'est que ça puisse se refaire à la même période l'année prochaine à Cocquerieville, mais pas seulement, que ça puisse peut-être se refaire en amont dans d'autres quartiers, sur d'autres lieux qui peuvent être aussi stigmatisés ou regardés comme des lieux où personne ne va, ou etc. Donc je pense qu'il y a plein d'autres lieux au Havre qui pourraient accueillir des manifestations de ce type-là.
Les habitants des lieux concernés, des quartiers comme on dit, peuvent trouver sympathique que ça se passe à l'initiative de certains d'entre eux, mais aussi avec des gens qui habitent ailleurs, et que ça puisse se refaire effectivement. Ouais, je pensais à quelque chose, moi. En fait, justement, cet après-midi, je me suis dit, pourquoi pas faire ça un 14 juillet. Alors, ça n'empêche pas, comme tu disais, qu'il y ait d'autres manifestations dans plein d'autres quartiers et tout. Mais pourquoi pas un truc fédérateur, parce que le 14 juillet, c'est la fête nationale, hein, de la France républicaine. Et justement, pour montrer que, voilà, que ça soit des Français de toutes origines, bretonnes, kabyles, sénégalaises. Je dis breton en premier, hein, excusez-moi. Ou des étrangers qui vivent en France, qu'on puisse dire ça, tiens, pourquoi pas, à l'occasion de la fête nationale, ben voilà, nous on fait ça, enfin voilà, je jette cette idée comme ça, why not.
Oui, why not, voilà.
Pourquoi pas.
Bon, après, c'est pas forcément, enfin, après, je pense qu'on en rediscutera avec les membres du collectif et puis avec les gens qui peuvent être intéressés par ce type d'initiative, mais c'est peut-être pas forcément non plus à faire sur un jour férié. Là, c'était la date, mais ça peut être aussi intéressant que ça se fasse de manière plus ordinaire, on va dire.
Oui, bien sûr, de faire régulièrement, on va dire. Bon, ça, j'espère que votre collectif va grossir. J'espère surtout que, bah voilà, avec d'autres associations, puisqu'apparemment il y a eu des échanges justement de contacts. Enfin bon, en tout cas, vous pourrez venir en parler quand vous le souhaitez, et au contraire, on pourra peut-être mieux participer, nous, en tant que radio, que effectivement là, autour du 15 août, c'était un peu moins facile.
Et ça, enfin, ça me semble d'autant plus important de réitérer ce genre de rencontre et de manifestation quand on voit que un an après les événements qui sont passés dans les banlieues, c'est pas terminé. Évidemment que ça continue, et je dirais que ça va encore plus crescendo, puisque là c'est carrément une nana qui a été pour moi immolé par le feu dans un bus. C'est-à-dire que c'est l'escalade de la violence qui continue, mais c'est aussi une escalade, je pense, qui répond
de la désespérance, quoi.
De la désespérance et puis d'une provocation, parce que à force d'entendre de la part des médias et de la part des hommes politiques, ça va être l'anniversaire de l'émeute des banlieues, et qu'est-ce qu'on dit, c'est putain, fêtez-le, ce putain d'anniversaire. Et moi, aujourd'hui, quand j'entends de nouveau qu'il se passe des choses dans les banlieues, je suis pas étonnée. Et peut-être que si, évidemment, les médias et les hommes politiques en avaient pas rajouté une couche en disant « c'est l'anniversaire des émeutes des banlieues », et peut-être qu'aujourd'hui, il y aurait pas une nana qui serait entre la vie et la mort parce qu'elle est brûlée à 70%, quoi. Alors,
Enfin, s'il y a des petits qui nous écoutent, je dis des petits... C'est bien de réfléchir, les amis, que quand on met le feu, voilà, quoi, les gens peuvent quand même en être gravement blessés, voire en mourir, quoi. Sinon, puisqu'on va parler de France Inter tout à l'heure à travers la basse, si j'y suis, et les AMG qui sont là, qui piaffent d'envie de venir derrière le micro. Hommage aussi à une autre émission de France Inter qui est inégale, hein, la bande à Bono, mais où Hervé Pochon fait quand même des très bonnes interventions. Et c'est vrai que tout début septembre, il a passé une semaine à Cachan et avec des comptes rendus vraiment vachement intéressants. Et là, il est allé lui aussi fêter l'anniversaire à sa manière des émeutes et est allé rencontrer les familles de Zied et Bouna. Et notamment, il a rencontré le papa de Zied, qui est un monsieur. Je dis ça, vous pouvez écouter cette émission de France Inter. Elle est pendant une semaine en archive. Donc là, vous avez encore quelques jours si vous voulez l'écouter sur Internet. Le papa de Zied, par exemple, c'est un monsieur qui a travaillé 32 ans en France.
À la municipalité de Paris.
Voilà, il n'a jamais connu le chômage. Et dans ses 32 ans de boulot, il a eu 11 jours de congé. Il a eu 20 sur 20 de notes administratives. Et il est vraiment sans rancœur, mais avec beaucoup d'émotion, dans la façon dont il témoigne de la non-assistance à personne en danger qui s'est passée par rapport à son fils, quoi. Donc, voilà, hommage à eux, hommage à lui, hommage à cette jeune femme de Marseille. Malheureusement, je suis désolée, j'ai oublié son nom. Donc on espère qu'elle va s'en sortir.
Mama, c'est Mama.
Mama.
Mama quelque chose, mais c'est Mama.
Théo, avant de te lâcher, est-ce que le collectif a des projets qu'on peut annoncer là tout de suite ou...
Non, le collectif réfléchit toujours à l'organisation de la marche contre les discriminations. Il n'y a pas de date qui a été fixée pour le moment. Je pense que il y a aussi, sans doute, il va y avoir d'autres événements, peut-être des rencontres dans des salles des fêtes ou salles d'animation, rencontres, débats, etc. Mais l'objectif là, je pense, c'est de faire grossir un petit peu le collectif de manière à ce que la marche, si un jour elle est autorisée, ou même si un jour elle n'est pas autorisée, mais qu'elle se fait, qu'elle ait un peu de succès, quoi. Donc voilà, l'objectif, c'est pour le moment, c'est de rencontrer plus de monde et de sensibiliser plus de monde autour de ça.
D'accord, l'appel est lancé. Merci beaucoup Théo. De toute façon, on voit tous les auditeurs dans le bar et sur Internet à l'émission qu'on avait fait avec vous. Vous avez bien développé toutes vos actions contre toutes les discriminations. Je ne redis pas lesquelles, Pascal.
Je voulais juste dire que s'il y a des gens qui ne sont pas convaincus quand c'était bien passé le pique-nique, vous n'avez qu'à voir le pull blanc de Théo qui est devenu vert à force de rouler de contentement sur la pelouse lors du pique-nique.
Voilà, c'est quelque chose de très radiophonique ce que tu viens de dire, Pascal.
Merci Pascal.
Non,
il y aura des photos sur le site, donc on pourra témoigner qu'en effet le sweat de Théo est vert. Eh bien, encore merci. Et puis après un morceau de musique, eh ben on va retrouver nos amis des repères de là-bas si j'y suis.
On s'appelle marre des pauvres parce que les pauvres y'en a marre. Y'en a marre, marre des pauvres. Les pauvres ils font aucun effort pour devenir riches. Y'en a marre, marre des pauvres. Quand ils jouent au loto, ils réfléchissent même pas à ce qu'ils cochent. Y'en a marre, marre des pauvres. Et s'il y avait un tout petit peu moins de pauvres, y'aurait pas toute cette misère. Marre des pauvres, marre des pauvres, y'en a nanana, y'en a marre des pauvres, oh oui, marre des pauvres, y'en a nanana, y'en a marre des pauvres, y'en a marre. Les pauvres quand ils travaillent, ils enrichissent les riches, du coup faut pas qu'ils s'étonnent s'ils sont toujours aussi pauvres. Marre des pauvres, marre des pauvres, ils font chier, ils font chier, ils font chier, ils sont maigres. Marre des pauvres, en plus ils se tapent la honte, ils sont mal habillés. Y'en a marre, marre des pauvres, les pauvres arrêtez de vous plaindre, vous gâchez le bonheur des riches. Y'en a marre, marre des pauvres, heureusement les très très riches, tu peux crever, ils s'en foutent. Y'en a marre, marre des pauvres. Et puis c'est facile de se plaindre quand on sait qu'on est la majorité. Marre des pauvres.
Radio Apple Pie, émission de rentrée. Et oui, enfin, enfin. Ouais. Donc nous sommes toujours au fond du bar l'Apple Pie, autour des micros. Et ça y est, on vous l'avait promis, avec les auditeurs modestes et géniaux du Havre. Auditeurs modestes et géniaux de l'émission voilà. Là-bas si j'y suis. Donc, qui sont en l'occurrence ce soir Jean-André, Françoise et Sylvie. Merci d'être venus.
Et puis êtes... merci à Radio Apple Pie.
Vous n'êtes pas forcément coutumier du micro, non, mais non. Je suis sûre que vous avez plein de choses à nous raconter et que ça va se passer très bien. Donc, évidemment, la première question qu'on voulait vous poser aux uns et aux autres, c'est est-ce que vous êtes des auditeurs depuis longtemps de cette émission, qui, comme je le disais en introduction, existe quand même depuis 89. Et bah voilà, peut-être un petit tour de table pour savoir comment vous avez rencontré chacun cette émission et ce qui vous a séduit avant d'en arriver directement à la création des repères. Hein. Jean-André, je suis sûr que c'est toi qui vas commencer.
Oui, mais ça fait vraiment longtemps que je connais l'émission. Et puis, ça va, c'est bon. Et puis que je connais l'émission, et puis souvent en quittant le boulot dans la voiture, comme ça qu'il y a une quinzaine d'années que j'ai connu l'émission. Et puis surtout, moi, ce qui m'a plu dans l'émission, c'est le principe du répondeur, c'est que les gens pouvaient donner des coups de gueule dans le répondeur, et puis dire ce qu'ils avaient à penser, ce qu'ils avaient sur le cœur, et c'est pour ça, quoi.
D'accord. Pas d'émission en particulier. Bah, Françoise et Sylvie, si vous voulez bien nous donner un premier première impression sur votre histoire avec là-bas.
Alors, pour moi, d'abord c'est Daniel Mermet depuis qu'il est à la radio, et puis après donc spécialement là-bas si j'y suis. Donc pareil, hein, le répondeur, surtout bon depuis ces quelques dernières années, qui permet de briser un petit peu la solitude dans laquelle on est face à tout ce qui se passe dans notre pays. Hein. Justement, en sortant du travail, effectivement, ça fait du bien d'entendre d'autres voix. Voilà.
Sylvie, je sais que t'as pas envie de parler, mais vas-y. Allez.
Bah, que dire. Allez, après Sylvie. Ça, c'est vrai que ça fait du bien d'entendre ça sur la radio. Ça donne de la pêche. On voit que d'autres personnes réagissent, comprennent, se questionnent. J'écoute beaucoup la radio, mais c'est vraiment le seul moment de bonheur, quoi. Vraiment, c'est un moment que j'essaie de tenir quotidien, parce que j'y prends beaucoup de plaisir.
C'est vrai que c'est une émission à part. On peut que, je sais pas, je suppose, enfin, d'après ce que vous dites, que vous êtes de toute façon des gens qui aimaient bien la radio, et particulièrement France Inter. Je pense qu'on a ce point commun, un peu tous ici. Mais malgré tout, si pour vous ça fait comme pour moi, c'est vrai que là-bas, si j'y suis, il y a un ton spécial. Hein, on l'a dit, vous l'avez dit, par rapport au répondeur, parce que c'est vrai qu'on peut entendre. On peut se sentir moins seul, effectivement, voilà. Parce qu'on dit « Ah merde, j'ai réagi, moi, à telle info qui a été mal travaillée, trahie par d'autres médias, etc. » Et là, on sait qu'on va entendre des voix qui disent « Mais moi aussi, quoi, moi
voilà,
aussi, je suis pas
fait,
d'accord. »
Tout à fait, Juliette. Ça donne la parole aux oubliés, aux exclus, aux prisonniers, aux banlieusards, aux travailleurs pauvres aussi. Et donc, ça permet aux gens d'avoir une autre vision de ce qui est donné dans la formation officielle et de leur apprendre, quoi. Donc ça dénonce les crimes et les mensonges du pouvoir aussi. C'est ici et ailleurs en France et dans les pays étrangers. C'est tout le bon côté du répondeur et tout le bon côté de l'émission, quoi.
Ah ouais, par rapport au répondeur, effectivement, il y a forcément ce côté, c'est vrai. J'étais obligée de le dire dans l'introduction parce que, au-delà des reportages, parce que c'est une émission quand même de reportages et de beaucoup de réflexions, d'entretiens avec des sociologues, avec des écrivains qui travaillent autrement sur des réalités. Par exemple, on en reparlera, je pense, avec vous, les travailleurs pauvres, tu viens de le citer. C'est aussi un autre regard sur l'actualité internationale, voilà. Effectivement. Parce que, par exemple, Daniel Mermet, notamment, alors c'est pas un fait de guerre, c'est pas le seul reporter, etc., mais qui a été blessé à Sarajevo parce que, voilà, il travaillait là-bas.
La Tchétchénie, le Bangladesh, toutes ces régions-là du monde, quoi. Donc,
Est-ce qu'il y a des émissions qui vous ont marqué dès le départ? Donc, à part le côté, c'est un peu atypique, il y a le répondeur, ça donne la parole à des gens qui n'ont pas forcément. Est-ce que pour chacun d'entre vous, il y a eu une émission qui a été vraiment, je ne sais pas ce que vous vous rappelez peut-être, la première fois que vous avez écouté Là-bas si j'y suis? Non, peut-être pas. Mais qu'est-ce qui vous a fait tilt peut-être? Est-ce qu'il y a une émission où vous vous êtes dit, ah tiens, ça, ce sujet-là, ça m'a marqué?
Moi, c'est une émission relativement récente, c'est celle sur la Tchétchénie, là, qui était vachement bien faite. Mais il y en a eu d'autres, il y en a plein d'autres. Et puis, il y a une amie là, qui devait être là ce soir, là, qui s'appelle
Fabienne
Derouin, qui, elle, justement, avait une idée précise, elle avait été là. C'était l'émission que Daniel Mermet avait fait il y a quelques années sur CA, sur la liquidation de CA à Paris. Et Daniel Mermet avait traité ça pendant une semaine. Et l'émission avait été fort intéressante, et c'est une émission qu'il avait décidé à participer.
Toi, Françoise, il y a une émission dont tu te souviens en
particulier? Moi, l'année dernière, je parle en année scolaire, il y a eu une semaine de reportage. Ce sont deux personnes donc, qui ont fait un reportage sur l'événement qui a précédé les élections. La fameuse élection des 80%, et sur cet homme qui est vieil homme qui a été brûlé dans sa maison. Ça reposait vraiment la question de savoir comment ça s'était fait et si ça avait d'où ça venait, ce fait divers.
Voilà. Comment avait été peut-être monté,
ce fait divers,
qui est tout à fait dramatique, ça, évidemment, on en convient, mais qui a effectivement, dans une campagne présidentielle où on attendait effectivement peut-être pas Le Pen au premier tour, mais enfin, où déjà les candidats de droite comme de gauche jouaient sur le tout sécuritaire.
Voilà.
L'histoire de ce vieil homme avait été montée. Qui d'ailleurs, si je me souviens bien, tu me dis si je me trompe, avait après coup, lui, regretté d'avoir été utilisé justement
absolument,
comme ça.
Absolument. Mmh. Hein. Donc, Daniel Mermet, son ton, sa capacité effectivement d'analyse, lui quand même qui a fait mis en exergue quand même la personnalité de Bourdieu. Est-ce que actuellement Bourdieu serait connu si Daniel Mermet n'avait pas divulgué quand même tout son travail? Et puis donc actuellement, avec tout ce qui se passe, effectivement, c'est une... C'est un moment, mais plus qu'indispensable, un contre-pouvoir qui existe encore un petit peu.
Ouais. Voilà. Et c'est vrai que c'est bien que tu parles de Bourdieu, parce qu'en effet, en 95, Bourdieu avait été important parce que lui, contrairement à de nombreux, j'ouvre les guillemets, intellectuels, avait soutenu le mouvement social, alors que d'autres frileusement se raccrochaient aux bottes droites de Juppé. Oui. Effectivement, c'est vrai qu'on entendait dans Là-bas si j'y suis, Halimi et d'autres, pour donner cette parole d'une sociologie différente, on va dire.
Ouais, voilà.
Petit tour de table, je t'embête Sylvie, je sais bien, mais est-ce que toi tu as une émission qui t'a fait réagir plus que d'autres
ou... On a la tête farcie plein d'émissions en fait, on a vraiment plein d'émissions en tête, c'est souvent, c'est pas facile de choisir, mais bon c'est vrai que tu en parlais tout à l'heure en intro, l'émission sur Dubaï. Et j'ai vraiment, on était face franchement avec la réalité, quoi. Ouais. C'était le délire total du capitalisme, de l'exploitation, de la folie, des gens qui se rendent pas compte de ce qu'ils font. Et puis à côté de ça, tous les autres qui souffrent et qui supportent la folie de notre monde, quoi.
C'est vrai que nous ici, sans, tout le monde a des horaires, enfin vraiment différents, dans les gens qui sont autour des micros de la radio. Mais par coïncidence et par chance, on a été nombreuses, notamment Letty, Leslie et moi, à pouvoir écouter quasiment la semaine entière, plus d'une semaine je crois, qui a été consacrée à Dubaï. Et quand même, on tombait des nues, et ça c'est vraiment des choses qu'on n'entend nulle part, ça c'est sans aucun doute... Le niveau, enfin, même au niveau des chiffres, je ne sais pas vous, je suppose, passer un certain nombre de zéros, on ne sait même plus où on en est. Et je parlais de ces Indiens hein, auxquels ils ont consacré beaucoup de temps, qui finissent par se suicider. J'ai dit un, hein, mais en fait, il y en a beaucoup. Et qui, en fait, ça, je crois que l'émission l'a bien expliqué. Moi, vraiment, je ne savais pas cette réalité-là. Pourraient vivre mieux dans leur pays, mais... Bon, problème de l'immigration en général, hein, mais auquel on fait miroiter des choses. Et finalement, ils sont tellement maltraités à Dubaï en faisant des 70 heures par semaine, par 40 degrés, sans un verre d'eau. Enfin, on se demande comment des gens qui sont aussi milliardaires, hein, c'est une question qu'on s'est posée, je me rappelle, Sylvie, mais qu'est-ce que ça coûterait de donner un verre d'eau ou d'enlever une demi-heure de boulot ? Ben non, quoi. Y a effectivement...
Ça, on peut écouter sur Internet. Hein, tu disais que tu avais eu la possibilité d'écouter tous les soirs ces émissions, mais c'est vrai qu'on peut les écouter aussi sur Internet.
Bien hein. sûr.
Heureusement, parce qu'à 3 heures, c'est avec l'horaire qui a changé, c'est pas facile. Voilà. Et heureusement qu'on a ça. Quoi.
Moi, ce que j'avais envie de rajouter aussi par rapport à cette émission, à la fois par rapport à l'émission et aux répondeurs. C'est qu'on se trouve là dans une position de pouvoir répondre et il y a vraiment une interaction entre la personne qui anime l'émission, les reporters qui font les différents reportages des émissions, le répondeur, nous, le public, enfin, c'est vraiment une possibilité de pouvoir donner ses émotions, ses impressions sur une information. On n'est pas dans un truc justement de consommation pure et simple. C'est-à-dire qu'on prend une information, on l'indigère, on la recrache où on veut. Là, non. On peut effectivement dire ce qu'on en a pensé, si on est d'accord, si on n'est pas d'accord, et puis se confronter aussi avec les autres auditeurs.
Je fais l'avocat du diable, je vais le faire plusieurs fois ce soir, je pense. Hein. J'écoute l'émission depuis de nombreuses années, je l'adore en partie, j'ai des critiques aussi. Ce que je vais dire là n'est pas une critique, mais c'est un bémol, je dirais. Là-bas, si j'y suis, ne s'en cache pas. Évidemment, il y a un nombre d'appels considérable.
Bah oui.
Et évidemment, il y a un tri et donc un montage. Je veux dire, bon, voilà, c'est évidemment pas interactif au sens où toutes les opinions sont données. Je veux dire par là, et voilà, personne, enfin Daniel Mermet ne dit pas le contraire, hein, mais de temps en temps, on va entendre un type tout à fait de droite, tout à fait libéral, qui va pourtant dire j'écoute quand même là-bas si j'y suis, je ne suis pas toujours d'accord. Mais voilà, comme disait l'autre, je me battrai pour que vous puissiez exprimer vos idées. On entend des gens qui contestent des émissions. On n'entend pas toujours tout le monde. Bon, c'est logique aussi. Je veux dire...
Je ne sais pas comment ils font la sélection, mais je pense qu'il y a quand même un éventail des appels. Ils essaient de respecter. Enfin, moi, je n'ai pas trop la notion.
Il y a une subjectivité. Il y a une subjectivité obligatoire.
À partir du moment où il y a un choix, c'est qu'il est... Voilà, c'est subjectif.
C'est comme le montage au cinéma, je dirais. Mais bon, après, c'est déjà une possibilité. Alors,
je peux vous dire, j'ai eu un message qui a été passé. Hein.
Oui.
Ça m'a amusé. Tout d'un coup, j'ai entendu ma voix. Donc, voilà. Donc.
Par exemple, justement, en tant qu'auditrice, c'était un message de remerciement par rapport à une émission qui t'avait plu, d'appel à quelque chose, de contestation.
Une réaction immédiate aux infos de TF1 un dimanche soir. Comment s'appelle la journaliste ? Je ne sais plus.
Sur TF1, Chazelle
voilà. Donc dénonçant donc une famille, enfin une institutrice avait découvert qu'un enfant, un de ses élèves en maternelle était en hypothermie. Et donc ils ont fait un petit reportage sur les difficultés des gens donc à payer leur électricité et ce que ça induisait, donc effectivement le non chauffage. Et bon, elle dit un petit peu sottement les gens incapables de payer leur électricité. Alors le incapable m'a fait bondir. Et donc j'ai repris ça en disant non, ils sont capables comme tout le monde, ce qu'il faut c'est du pognon pour pouvoir payer quoi.
On poursuit avec vous, on écoute le morceau suivant que vous avez choisi, Sylvie je crois d'ailleurs, on en parle.
Yeah.
Voilà, c'était un morceau très court. Alors ça aussi, c'est une référence. Parce qu'on n'a pas tellement quand même dans le paysage radiophonico-audiovisuel français tellement d'endroits rebelles. Et merci Sylvie d'avoir choisi le générique de 7 jours à Groland. C'est quand même, si je puis dire, une institution dans la subversion.
Donc, mais ça fait plaisir, hein, je trouve ça bien la
pêche. Oui, puis voilà, le président de la presse hypothée, quand même, on a vraiment envie qu'il soit sauvé celui-là. Pas plus sur Groland.
Non, regardez Groland, c'est très bien, c'est le samedi à
20h. 20h25 sur Canal+. Il ne faut pas s'en priver parce que c'est vraiment un des derniers lieux, vraiment à la fois de choses. On est rebelle et humoristique, où là, vraiment, s'exerce la vraie subversion. Parce que bon, on pourrait gloser, on va pas le faire ce soir, sur les guignols, bon, ça reste bon, intéressant. Mais Groland, c'est vraiment quand même une capacité à remettre des choses, justement, un petit peu comme la Val si j'y suis, dans une manière beaucoup plus satirique, hein, mais en question, sur des thèmes peut-être plus difficiles, comme l'homosexualité, la vieillesse, à travers quand même des... Des trucs bien tordus, quoi. On peut le dire. Ludo.
Oui, à propos de Groland, il faut signaler que depuis 2 ans, ils organisent un festival de cinéma qui a lieu dans la petite ville de Quin, si je ne me trompe. Festival qu'il faudra bien un jour que Radio Apple Pie décide de couvrir.
Mais oui.
Alors, l'édition de cette année est passée. C'était fin septembre, me semble-t-il.
C'est cela, oui.
On pouvait y voir notamment le dernier film de Benoît Delépine et Gustave Kervern. Avidor, qui est également passé à l'étrange festival, mais nous en parlerons tout à l'heure. On pouvait y voir le dernier film de Pierre Carl, également fait en collaboration avec Éric Martin, ex-rédacteur en chef de Zoo, qui s'appelle Choron Dernière, sur l'illustre professeur, et le film qui a obtenu le grand prix,
c'est l'Amphore,
je suis en train de chercher, c'est le film de Sacha Baron Cohen qui doit sortir d'ici quelques temps, et je me tourne vers Pascal parce que son titre m'échappe.
Oui, ça a l'air de lui échapper aussi.
La grande échappée.
La grande échappée, voilà, ça ne peut être que ça.
La grande échappée du papillon.
Borat, me semble-t-il. Borat, oui, voilà. C'est ça qui donc doit sortir d'ici peu.
Le cinéma est ton domaine et voilà. Nous ne contesterons pas tes infos. Et d'ailleurs, nous ferons comme les grands médias, nous ne démentirons pas, même si on s'aperçoit après, qu'on avait tort. Voilà, il n'y a pas de raison. Bon, en tout cas, on a vu que vous étiez effectivement les auditeurs modestes et géniaux, évidemment, et en tout cas fidèles de là-bas si j'y suis. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus en détail comment est venue l'idée, avant de passer au Havre, hein, de créer les repères au niveau national, et donc comment vous en avez entendu parler, vous, comme nous?
Daniel Mermet a voulu que sur le plan national et dans chaque ville de France, qu'il y ait une continuité, que ça continue, si vous voulez. Il voulait prolonger l'émission, créer une communauté, un lien entre les auditeurs et l'émission. Donc c'est comme ça qu'il y a bien une trentaine de repères qui s'est créé en France. Donc c'est créer un lien d'échange, d'infos entre les villes, les auditeurs de base et puis l'émission. Donc l'idée c'est ça, hein.
Pour préparer le grand jour aussi. Hein,
allez, préparer le grand jour, oui.
Je crois qu'au début, alors je ne suis pas sûre parce que les choses vont vite, mais il me semble effectivement que l'année dernière, en septembre, quand l'idée a été lancée, c'était tout simplement les amis de là-bas, si j'y suis, je crois
oui,
que ça s'appelait comme
c'était
ça.
Les amis,
ça.
Oui.
Alors, je ne sais pas si vous aviez pensé comme moi, sur le moment, je me suis dit, oula, est-ce que ça ne voudrait pas justement déjà dire qu'il y a peut-être une menace sur l'émission et que c'est pas seulement dans l'idée de ce que les gens se rencontrent, qui était déjà une fort belle idée pour préparer ou pas la veille du lendemain du grand soir, mais je sais pas, moi je m'étais dit peut-être que déjà c'est créer un réseau qui pourra servir au cas où.
Oui, on ne sait pas si c'est ça, mais si c'est ça, c'est bien. Ouais, c'est ce qu'il fallait faire.
Oui, en tout cas,
c'est ce qu'il fallait
faire.
On
y a pensé un petit peu. Hein,
on y a pensé aussi, oui. Monsieur. Oui, on y a pensé aussi. Mais c'est très bien, effectivement. Les repères bougent en France. Hein,
les repères bougent, en effet.
Ah, oui.
Et donc, l'idée a été lancée. Et vous avez relativement vite embrayé, finalement. Parce que nous, à notre grande honte, Radio Apple Pie à la traîne, pour une fois, on a appris que vous avez commencé à vous réunir en avril.
Voilà,
c'est
au mois d'avril. Ouais,
on nous cache tout.
On a créé le repère au mois d'avril.
Alors comment ça s'est passé? C'est parti à l'initiative
de qui? C'est entre Françoise qui s'y présente et moi. Mm-hmm. Un soir j'étais chez elle, j'étais à un dîner, tout ça. On a parlé de l'émission comme d'habitude. Et puis des repères. Et puis j'ai dit, pourquoi qu'on n'en ferait pas un au Havre? Et voilà. C'est comme ça que j'ai contacté Christian qui tient le bistrot. Le café, le bistrot, et puis il dit ok, tous les mercredis, et puis voilà, c'est parti comme ça.
Alors comment ça se déroule concrètement? Donc vous vous rassemblez tous les mercredis, il y a combien de personnes?
Ça dépend. La première réunion, il y avait 14 personnes, après il y en a eu moins. Quand on a fait l'action sur le camping qui est toujours en cours, il y a eu jusqu'à 22 personnes. Ça dépend, c'est fluctuant. Mais il y a du monde, il y a un petit noyau dur autour de...
C'est joli, un noyau doux.
autour de l'émission.
Je dirais que il y a eu la mise en place jusqu'aux vacances, et puis là au mois de septembre, on s'aperçoit qu'effectivement ça démarre, les gens connaissent, il y a ceux qui viennent voir parce qu'ils en entendent parler seulement maintenant, qui vont venir ou parvenir, qui viennent régulièrement, mais on est bien une dizaine quand même à venir.
Alors, comment est-ce que vous présentez chaque réunion? En fait, les gens arrivent et vous dites, soir, on va parler de ça, ou est-ce que quelqu'un a envie de parler de quelque chose en particulier? Est-ce que vous faites une annonce?
Alors, on pose la question aux participants si quelqu'un a envie de parler de quelque chose, de faire un coup de gueule, hein, c'est le principe du répondeur, mais il n'y a pas de thème. On a souvent discuté entre nous. Est-ce qu'on fait un thème? Est-ce que non, on fait pas de thème? On a choisi le débat spontané. Hein, pas de construction préétablie. Ça vient comme ça. Et en fin de compte, il y a quand même un support. Parce que le thème, il sort tout seul, en fin de compte.
Ça ne vient pas forcément des émissions de la semaine qui a précédé.
Ça peut, mais maintenant ça devient difficile avec l'émission à 15h, ça devient dur.
On dit qu'on va en parler. Autre chose, remarquez, oui. Attaquons frontalement dans ce cas-là, parce que de toute façon, à force de dire, on va finir par en parler. Oui. Effectivement, là-bas, si j'y suis, pendant de nombreuses années, était diffusé à 17h sur France Inter. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une grande alerte, un grand appel un petit peu avant l'été.
Le mois de juin.
Restructuration de la grille des programmes de France Inter. Et entre autres, il n'y a pas seulement ça qui a changé, mais effectivement, là-bas, si j'y suis, était programmé d'un coup à 15h.
Au début, il était question que ça disparaisse.
Oui.
Voilà. Alors, justement, par rapport à cette histoire-là, quand je vais passer la parole à Ludo bientôt par rapport à ça. Ah non, je croyais que j'allais te passer la parole pourtant.
Non, c'était les mêmes interrogations que toi, en fait. Hein. Je pense que c'était qu'effectivement, on avait eu ce mail à l'intitulé pour le moins alarmiste, hein, qui était non à la disparition de là-bas si j'y suis. Et en fait, ce que je voulais vous demander, c'est si ce changement de plage horaire, si vous savez déjà si ça a entraîné si ça a eu des répercussions en termes d'audience pour l'émission, et au-delà, si ça a eu des répercussions en termes de contenu, de ligne éditoriale.
Que effectivement, d'après les calculs statistiques qu'ils avaient pu faire, ça pouvait faire passer l'audience, la faire baisser de 50%. Alors bon, c'est quand même déjà important parce qu'effectivement, dans l'esprit de rentabilité qui sévit malheureusement même sur le service public maintenant, ça veut dire que quand on commence à dire une émission a perdu 50% de son auditoire, c'est un petit peu la pousser sur un strapontin, puis après voir la faire disparaître.
Oui,
je te tendais la perche, Ludo, si je puis me permettre, j'y reviens, parce que il me semble, ce serait peut-être des grands mots, mais que Pierre et toi notamment, vous aviez un petit peu réagi avec un esprit critique, ce qui est tout à votre honneur, en disant que c'était peut-être une malhonnêteté intellectuelle, le mot est peut-être grand, d'annoncer la disparition alors qu'il s'agissait, si je puis dire, seulement d'un changement horaire, même s'il devait faire baisser l'auditoire.
Non, c'est-à-dire que l'argumentaire expliquant justement que ce déplacement dans la grille pouvait entraîner une disparition et était peut-être justement dans cette optique se tenait tout à fait. Je pense que commencer en revanche, c'est une pétition, me semble-t-il. Commencer une pétition par non à la disparition peut franchement induire en erreur. Ça sous-entend, à la rentrée, il n'y a plus rien, porte close. C'est ça qui me dérange plus.
Bah, au début, Mermet avait dit qu'il arrêterait l'émission si on le passait à 15h. Et en fait, je crois que le soutien a été tellement, tellement fort qu'ils se sont dit, bon, on continue quand même. Voilà. Même à 15h, on continue quand même. Parce que bah, y a des gens qui sont attachés à l'émission et...
Parce que nous, on a fait partie d'un petit groupe qui est allé du Havre, là, qui est allé voir Mermet à Japy. Là.
Ouais.
Et on a vu Mermet, on a discuté avec Mermet. Et au mois de juin, donc c'était fin juin, Mermet, c'était pas sûr du tout qu'il accepte 15 heures. Hein.
Oui. Alors, parce que voilà, si tu peux nous donner quelques précisions, Jean-André, enfin François, d'accepter si tu y étais aussi. En fait, au gymnase à Japy, il y a eu... tout un forum qui était autour de Où va France Inter, hein, c'était plus large.
Absolument.
Voilà. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus, parce qu'apparemment, ça regroupait pas mal de monde, y compris des animateurs un peu inattendus, enfin, comme Louis Boson, je sais, de France Inter. C'est qu'il y avait un buffet campagnard, j'avais entendu dire ça, de la Confédération Paysanne. Bon, nous, on n'a pas pu y aller, alors racontez-nous un peu, si vous voulez bien.
Il y avait surtout, pour le coup, la suppression de la chronique d'Alain Rey.
Oui, bien sûr, on avait oublié Alain Rey.
Ça, c'est quelque chose de gravissime, parce que ça représente quand même que quelques petites minutes, effectivement, suffisamment pertinentes pour pouvoir bousculer un petit peu la pensée, surtout de bonne heure le matin, comme ça. Donc Alain Rey était là, mais... aucune remise en cause, effectivement, de son départ. Hein.
Juste pour une précision, hein, en fait, c'est parce que peut-être que tous les audinautes de Radio Apple Pie ne connaissaient pas forcément la chronique d'Alain Rey. Donc, si tu veux bien, Françoise, expliquer brièvement en quoi il parlait, des mots, enfin...
Donc, il terminait le journal du matin. Donc, Alain Rey, c'est un linguiste qui a fait donc, le Robert. Et donc, qui arrivait en quelques... C'est certainement une chronique d'une ou deux minutes, hein, je ne sais pas exactement, à synthétiser... ce qui s'était dit en 2 heures, à sélectionner, mettre en relief la pensée sur un seul mot, à déployer le mot à partir de son étymologie.
Oui.
Bon, c'était vraiment brillantissime. Hein. Voilà. Donc Alain Rey n'est plus là. Et là, c'était irrévocable.
Ouais, ouais. Et puis bon, effectivement, on peut se dire que c'est... Ça n'a l'air de rien, mais ça, déjà, c'est une attaque gravissime, en fait, justement, parce que ces deux petites minutes quotidiennes étaient aussi rebelles, vraiment, à leur façon. Quoi.
Absolument, absolument.
Donc, à Japy, il y avait la disparition d'Alain Rey, le changement dans la grille horaire de la basse IGSU. Est-ce que vous étiez nombreux ?
Du Havre, on était 5, je crois. Mais sinon, le Japy était complet, hein, il était archi-comble, là.
Donc ça, enfin, j'en sais rien. Je suppose que vous n'avez pas compté les têtes, mais
C'était archi comble.
Ouais. Il y avait du monde dehors.
Des milliers de personnes.
Oui.
C'est un succès.
Et donc à ce moment-là, pour revenir à la basse IGSU, effectivement, Mermet et son équipe hésitaient à continuer.
Ils hésitaient.
J'ai entendu des auditeurs dire, je trouve que c'était assez bien que de les féliciter de ne pas avoir cédé, si je puis dire, au péché d'orgueil, c'est-à-dire de dire, c'est démission ou soumission, bon, bah, ni l'un ni l'autre, c'est compromission, mais peut-être au bon sens du terme, enfin, je suppose que c'est votre avis.
Il y a dû y avoir des négociations, on a posé la question à Mermet, mais il ne voulait rien nous dire.
D'accord.
Il ne voulait pas nous donner d'infos, là, à Japy, il nous disait, on ne peut rien vous dire, c'est en pleine négociation, donc on n'a rien su, ce qui s'est passé exactement.
Des négociations aussi pour ses collaborateurs qui avaient des projets de travail donc pour l'été, et je pense que ça le bloquait énormément. Il ne voulait pas remettre en cause les projets de ces journalistes, hein. Donc je pense qu'il était dans une situation extrêmement complexe entre peut-être le désir de partir parce qu'un peut-être aussi un petit peu ras-le-bol de tout ça. Et puis ce soutien auquel on a senti vraiment il ne s'attendait pas à ça, et puis la nécessité cruciale effectivement de poursuivre, et ces négociations qui étaient certainement extrêmement dures, hein, on sentait vraiment un climat, enfin moi j'avais trouvé.
En tout cas, ça continue, même si effectivement c'est un horaire qui est plus difficile pour beaucoup de gens. Je pense que par rapport à la question que posait Ludo, je crois qu'ils n'ont pas eux-mêmes encore la possibilité statistique de savoir exactement combien de personnes manquent cette émission en direct. Parce que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, bon, maintenant, ça n'est pas le cas de tout le monde, et notamment des plus pauvres. Hein. Tout le monde n'a pas forcément un ordinateur et la possibilité d'écouter sur Internet. Tout le monde ne peut pas podcaster. Bon, cela dit, effectivement, ce sont des solutions alternatives pour pouvoir continuer à relayer l'émission. Sylvie ?
Oui, on avait peur aussi qu'il ait moins de moyens pour faire fonctionner son émission. Mmh. Et bon, en fait, apparemment, il bouge bien encore. On est un petit peu rassurés sur ce problème-là.
Oui, parce que alors pour en venir à l'actualité, je suppose que vous avez suivi ça de très près. Une chose intéressante, je le disais en intro, c'est que là-bas, si j'y suis, c'est pas seulement, évidemment, l'actualité à chaud. C'est prendre le temps, c'est aller sur les lieux où il se passe quelque chose, alors qu'ils sont très variés, vous nous le direz mieux que moi. Et en l'occurrence, donc c'était en Afghanistan à plusieurs reprises. Il y a 5 ans, au moment... tous les guillemets qu'on peut mettre hein, autour de la libération de l'Afghanistan après l'intervention américaine. Et puis ce retour en ce moment, puisqu'en ce moment même, il y a 15 jours, voilà, l'équipe, Guy Vanctil et puis Mermet étaient dans le Panjshir et puis sont retournés voir un certain nombre de gens. Donc ce qu'on écoute en ce moment, là, tous les jours de cette semaine, c'est des choses sur lesquelles vous travaillez au repère du Havre en ce moment,
non,
pas encore.
Non, pour l'instant, non. Non, parce que pour l'instant, on a un chantier qui est ce que j'appelle un chantier, qui est la fermeture du camping à Bonjon. Donc, on ne peut pas tout faire. Là.
Bien sûr. Bon, de toute façon, d'accord.
Bon, sinon, on l'aurait fait. Hein. C'est vrai que.
Il y a le temps. Hein. C'est vrai que c'est une actualité à relayer, enfin une réalité à relayer. Voilà.
Une actualité locale, là, donc un problème local.
D'accord. Un petit moment de paix choisi par Sylvie avec la musique des vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati. Voilà, ça nous fait une bonne respiration paisible. Merci Sylvie. Donc voilà, les auditeurs modestes et géniaux de là-bas, si j'y suis, le repère du Havre. Tu parlais, Jean-André, de ce qui se passe au camping de Monjon. Alors, je vais faire un point très bref juste avant de vous passer la parole. Effectivement, on l'a dit tout à l'heure, bon, ce camping va être fermé. il y a des grosses différences, on va dire, de point de vue entre la gestion du camping, les résidents d'une part et la municipalité du Havre d'autre part. Et vous, en tant que repère local havrais de la Basse, si j'y suis, vous n'êtes pas seulement un club de rencontres. Voilà. Un club de discussion. je vous dis ça. Je rends hommage à Thomas Sirou qui n'est pas là ce soir, alors qu'il m'avait juré tout à l'heure qu'il serait là. Et c'est lui qui m'a suggéré cette question parce que j'ai dit avez-vous des questions par rapport au secteur? Mais est-ce que c'est juste un putain de club de rencontres?
Non, c'est un club d'infos. Voilà, c'est ça. Voilà. Un club d'infos.
Ce qui n'empêche pas les rencontres.
Voilà, tout à fait.
Donc, vous avez des projets, des idées de, bah, d'action, et notamment par rapport à cette histoire locale du camping de Montjean. Voilà, alors, je vous laisse la parole là-dessus.
On a aidé à sortir l'information donc, sur la fermeture du camping de Montjean, qui devrait fermer selon les souhaits de la municipalité au 31 décembre, parce que la municipalité met fin à la délégation de services publics. Et nous, donc, avec Attac, on a sorti le problème, mais maintenant, il y a tout un mouvement, il y a tout un collectif qui s'est formé pour empêcher la fermeture du camping.
Alors, quand vous vous réunissez...
Donc, on est à l'origine de ce mouvement.
Voilà, j'entends bien.
C'est ça qui est...
Quand vous vous réunissez, donc, vous parlez de ça...
On a lancé le truc, et c'est bien parti.
Bah, bravo. Du coup, voilà, c'est bien. Voilà des preuves concrètes qu'en effet... autour de gens qui sont sentis solidaires et concernés par une émission nationale, au niveau local, un regroupement et puis des choses concrètes. Donc c'est bien, en effet, ça commence à prendre forme. Alors même si, alors je me suis laissé dire, parce qu'il y avait un conseil municipal il y a une dizaine de jours, le lundi de la semaine précédente, où on attendait plus de monde. Alors bon, nous, on n'a pas pu y aller pour différentes raisons.
Il y a eu des intempéries sur le Havre ce jour-là, ce lundi-là. Mais c'est vrai qu'il y avait à peine une cinquantaine de personnes qui a distribué des tracts. Bon, on a demandé aux élus de l'opposition d'interpeller la municipalité, ce qui a été fait. Bon, mais on s'est retiré un blackout total, hein. Donc, 50 personnes dans des mauvaises conditions, moi je pense que c'est oui, tout le monde n'était pas là.
On voulait pas trop de monde.
Oui, non plus.
Parle dans le micro, ma chère Sylvie, s'il te plaît.
Au départ, on voulait pas trop de monde, on voulait pas. Enfin,
non plus.
La décision avait été prise de pas être trop agressif au départ, en espérant une meilleure écoute. Et là, comme l'écoute a été nulle, il va falloir mettre les grands moyens la prochaine fois, le 15 novembre.
Et voilà.
On voulait privilégier la négociation, mais bon.
La négociation, c'est souvent pas un agrément entre gentlemen avec ce genre d'institution. Il vaut mieux des rapports de force.
Des méthodes plus radicales.
Tout à fait clair.
C'était clair.
Des rapports de force conséquents, mais pacifistes.
Voilà, tout à fait.
Prendre un exemple sur nos amis qui luttent dans des conditions difficiles à Waraka, comme à Belaïn. Donc, en tout cas, c'est. Une de vos actions, vraiment, je vous dis, on en reparlera puisqu'on sera, je pense, tous ensemble le 11 novembre au camping pour.
Tu as raison d'en parler, Juliette, parce que le 11 novembre, il y a une fête au camping, enfin, une fête, mais en même temps, c'est pour soutenir le camping, empêcher sa fermeture et soutenir donc la gérante et les résidents qui sont là, pour qu'ils conservent le camping.
Et faire connaître aussi le camping qui finalement est méconnu des Havrais puisqu'ils n'y accèdent pas. D'abord parce qu'ils n'ont pas le droit, ils n'avaient pas le droit d'y aller. Ça avait été convenu comme ça par la mairie qui avait installé le camping. Et pour des raisons, parce que c'est dans notre ville, donc on n'y va pas. Bon, cela dit, ce n'est pas pour autant que ce camping n'appartient pas aux Havrais. Et je voudrais quand même rebondir sur un des arguments de Madame Valtou, c'est rendre la forêt de Montjon à Havrais. Le camping nous a jamais privé de la forêt de Montjon. C'est un lieu d'accueil pour les personnes qui souhaitent venir dans notre ville. Et partager, ça ne veut pas dire être privé.
Non, mais tu fais bien de le signaler, d'autant plus que, autant que je sache... toutes les familles avec les enfants qui ont envie d'aller se promener, faire du vélo, du roller, donner du pain aux animaux ou juste profiter de la forêt, n'en ont jamais été empêchés par l'existence de ce camping.
C'est bien que ce ne sont que des mauvaises raisons que présente la municipalité pour justifier la fermeture du camping. Mais ça, de toute façon, on aura l'occasion d'en parler.
Voilà, puisqu'en effet, manière, donc, c'est une journée porte ouverte. Donc, amis dans le bar, amis des médias aussi, vous êtes tous invités à venir à cette journée porte ouverte au camping de Montjon, donc le samedi 11 novembre, voilà, où nous aurons la joie géniale et modeste de faire une émission, si tout se passe bien, en direct sous vos yeux. Oui.
Il y a par ailleurs une pétition à ce sujet,
voilà,
qui continue
tout
à circuler,
oui, la pétition,
sûr, notamment ici,
et qui est en ligne sur le site de Radio Apple Pie,
voilà, et qui a recueilli plusieurs milliers de signatures, hein, Sylvie. Oui, oui.
Bon, alors vite fait pour conclure sur ce chapitre, puisqu'effectivement on en parlera beaucoup plus dans cette fameuse émission. Effectivement, le camping reçoit à la fois des étudiants en attente de logement, parce que ça, bon, c'est pas toujours facile, voire même de plus en plus difficile avec la récente fermeture, notamment de la Pommeraye, bon, ici au Havre. C'est une chose, de toute façon, qui est valable, hélas, dans toute la France. Mm-hmm. C'est un endroit qui accueille évidemment les travailleurs saisonniers.
Voilà. Et pas d'autres endroits pour se loger parce que c'est trop cher, bien souvent.
Voilà.
Et où c'est qu'ils vont aller maintenant? Ils sont au service des entreprises qui travaillent pour les Havrais, justement.
Et aussi des touristes qui viennent d'un peu partout et qui sont très contents de trouver ce camping, même s'il n'a pas, comme le dit la municipalité, une piscine, ce qui, au bord de la mer, n'est pas forcément la chose la plus nécessaire. Je voulais juste vous poser une question, mais si vous ne savez pas, c'est parce que juste un petit titre depuis longtemps. Est-ce que vous savez pourquoi, est-ce que c'est dans toutes les villes le cas, des résidents d'une ville ne peuvent pas loger, aller en vacances dans le camping de leur ville?
Non, moi je sais, c'est André Duruméa, quand il a ouvert ce camping, il a eu peur de l'affluence de trop de Havrais, et c'est en se disant qu'il n'y aurait peut-être plus de place pour les touristes, donc ils avaient décidé de... Mais bon, ça peut être réédité.
Bonjour le communisme,
hein. Ça, non, mais c'était pour dire, bon, c'est un endroit pour les touristes, mais c'est vrai que ça peut tout à fait être envisagé, agrandi, accueillir les Havrais, enfin il y aurait du monde, il n'y aurait pas de problème.
Alors, une idée d'un auditeur de la radio, mais pas seulement un auditeur, puisque c'est un adepte de notre groupe et qui y participe activement par ses qualités graphiques et autres. Donc voilà, je vous laisse...
Et sexuel.
Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je connais certains de ses fantasmes, mais quant à la pratique, je ne peux rien dire. Il proposait, pourquoi pas, de faire un nouvel an au camping.
Ah, c'est une bonne idée, ça.
Je dis Jérôme Sirou,
excellente bonne idée.
Idée.
Ça.
Bravo,
Jérôme.
Idée, ça.
Puisque la municipalité...
C'est une excellente idée. Puisque décide. Le 31, ça devrait être fini. Ouais.
Voilà, ah, ouais, 31 ouais. décembre, super. Ça devrait être fini. Bah, si on fait le jour de l'an, là-bas, bah, on sera peut-être un certain nombre à devoir être expulsé.
Eh ben, il est très bien, ce
il
Jérôme
raison,
Sirou.
Jérôme,
bravo.
Oui.
Voilà. Alors
moi, je pense à la pétition. C'est vrai qu'on l'a fait un petit peu circuler, mais peut-être pas suffisamment, parce qu'en fait, quand on se rend compte du pourcentage de personnes qui sont contre la fermeture de ce camping, si on pouvait faire signer ça à tous les Havrais, je pense que on aurait presque tous les Havrais qui signeront.
Bien sûr.
Qui signeraient.
Tout à
fait,
ouais.
Donc actuellement, quels sont les endroits où on peut signer cette pétition?
Eh oui.
Enfin,
bonne question concrète.
Alors il y a déjà le site du camping, je crois que c'est campinglehave.org, si je ne m'abuse, mais en tout
toutes
cas
les infos sur le site de Radio Apple Pie.
De toute façon, toutes les informations sont évidemment sur le site de la radio. D'autre part, il se trouve que dans la presse havraise, l'information est plutôt bien relayée quant à l'histoire du camping depuis le début. Ceci dit, la pétition dans les différents lieux publics tels que les bars qui soutiennent cette action, on peut la signer bien sûr au camping, et je pense que ça fera très plaisir à Frédéric et aux différents employés qui sont là-bas de venir voir des gens. Enfin, de voir des gens qui viennent signer la pétition directement au camping, c'est l'occasion aussi peut-être d'aller découvrir ou redécouvrir ce lieu-là.
Bon, il y a la radio Apple Pie aussi, il y a une feuille qui circule. Il y a des feuilles dans tous les bars de la rue Aristide Briand, du cours de la République, un petit peu vers Nanton, etc. Apparemment, il y en a vers Saint-François dans les bars aussi.
On va en laisser à Théo et à Bacaré, comme ça. Ça va être relayé sur Cocrioville et compagnie.
On entend sur les marchés aussi, t'oublies les marchés.
Oui, sur les marchés.
Il y a des gens
oui,
sur les marchés.
Mais on n'est pas assez nombreux,
oui,
c'est vrai.
Oui.
Que...
On en reparle et on va faire suivre. Oui. Mais quand vous vous réunissez, bien entendu, même s'il y a une actualité locale forte avec ça, et c'est bien de s'impliquer dans une lutte, je suppose que vous discutez d'autres problèmes à la fois nationaux et locaux. Est-ce que... Oui, voilà, parce qu'on n'a pas posé une question. Je m'y prends, je repars, je rembobine. Voilà, on a souhaité ce soir vous demander de venir plus en tant qu'individu, parce qu'on trouvait que c'était plus intéressant en tant qu'auditeur, effectivement. Mais je suppose qu'à l'origine, les uns ou les autres, et puis d'autres qui ne sont pas là ce soir, font partie sans doute de syndicats, d'associations.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous connaissiez déjà ? Pas forcément. Oui, oui. Voilà, on aimerait bien savoir ça justement, comment ça se passe. Parce que d'ailleurs, nous-mêmes, on est tentés, bien sûr, de participer au repère.
Il y a eu beaucoup de copains, beaucoup de copains de rando, parce que moi j'organise des randos. Il y a eu des copains d'attaque, il y a eu des copains d'AC, il y a eu des copains de... Des copains au départ. Hein.
D'accord.
Et
des gens, déjà d'autres clubs de rencontres.
Voilà, voilà, tout à fait. Et puis des gens qu'on ne connaissait pas qui sont venus grâce au message sur répondeur.
Voilà, alors ça c'est bien.
Moi
ça.
J'ai fait des quand le repère a été créé au mois d'avril, donc j'ai fait des annonces sur le répondeur.
Je t'ai entendu en écoutant France Inter. J'ai dit, mais tiens, il y a un repère.
Et grâce à ça, il y a des gens qu'on ne connaissait pas qui sont venus et qui continuent à venir. Donc,
alors ça c'est bien. Non, mais
ça marche le répondeur.
Franchement, sans faire de la sociologie à 3,50€, mais ça veut dire, évidemment, nous on se posait ces questions, on se disait, il y a Radio Apple Pie qui existe depuis un moment, on connaît pas mal de gens, on commence à connaître forcément un certain nombre de gens du milieu associatif, syndical, rebelle, etc. Mais qui peuvent être les auditeurs inconnus qui sont là, qui écoutent cette émission, qui sont passionnés, et puis qui, soit ils sont timides, soit ils n'ont pas envie de militer. Vous commencez à les voir,
cela. Je crois qu'on a tous en commun la même sensibilité. Dénoncer l'arbitraire, dénoncer l'injustice. Je crois que c'est ça qu'on a en commun tous. Hein. C'est ça. Pousser des coups de gueule contre ce qui ne va pas, et puis informer, vouloir le faire savoir aux autres. Moi, je sais ce que j'aurais voulu, que ce Café Repère, ça soit un lien, un lieu d'information. Que regrouper un peu sur le plan local tout ce qui ne va pas, toi, dans tous les domaines.
D'accord.
Un lien, un lien d'information. Si vous pouvez résumer, un lien.
Est-ce que ça se fait déjà comme ça, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez en projet et sur lequel vous êtes en train de travailler?
C'est commencé maintenant, le réseau, je crois qu'il est fait. C'est commencé.
Ce qui est bien, justement, c'est que ce sont des gens très différents qui viennent, donc qui viennent de différents âges, tous les sexes, tous les différents boulots. Et en fait,
tous les sexes, les 12 sexes, tu veux dire.
Oui, il y en a plein.
Excuse-moi.
Et justement, on n'est pas forcément dans des associations, c'est l'occasion de rencontrer des gens différents, voilà. Des gens plus timides peut-être, des gens qui ont pourtant plein de choses à dire, mais qui sont peut-être pas une âme de militants, s'y retrouvent pas vraiment, et qui ont quand même envie de parler, échanger, participer à l'occasion, à des actions.
Et du coup, là, aux réunions, parce que tout à l'heure, vous disiez que vous aviez décidé que ce serait le spontané. Débat spontané, et que, évidemment, il y a plusieurs sujets qui doivent être abordés dans une même soirée, ou alors est-ce que vous faites un peu un tour de table en disant, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire et sur quoi vous avez envie qu'on parle, ou alors ça peut être, on peut passer de l'Afghanistan en parlant de ce qui se passe au Havre, aux campings, en passant par l'école.
C'est un peu libre. Hein. C'est vrai que certains soirs, on a passé une soirée sur un thème parce que justement tout le monde se sentait.
Sur les handicapés, c'est ça que tu veux dire.
Oui, enfin, il y a des soirées où vraiment on a parlé.
Oui, par exemple, dites-nous concrètement, c'est intéressant.
C'est ce qui se passait au Havre dans les institutions d'handicapés, tu vois. Mm-hmm. Donc là, effectivement, ça nous avait pris toute la soirée, pour ainsi dire.
C'est venu comment ?
C'était sorti tout seul.
Parce que des personnes étaient concernées.
Plusieurs personnes avaient parlé des problèmes qu'ils rencontraient.
D'accord.
C'était sorti comme ça.
On partait en fait de nos difficultés professionnelles, voir nos souffrances professionnelles, et lors de notre présentation, la conversation s'est embrayée comme ça, et on s'est retrouvés à plusieurs à avoir les mêmes soucis, les mêmes interrogations,
Et est-ce que vous arrivez à trouver des réponses à vos interrogations ? Est-ce que vous arrivez à trouver des actions à mettre en œuvre par rapport à des dysfonctionnements, ou est-ce que c'est déjà avant tout en fait un lieu de parole ?
Bah, cette fois-là, c'était plutôt ça. Hein. C'était
un lieu d'info.
C'était plus un lieu d'info, un lieu de parole, d'échanger, d'avoir des informations d'autres personnes.
Moi, je dirais aussi que ça permet aux gens de ne pas se sentir seuls. Il y a des gens qui se sentent isolés, qui ont des problèmes. Et comme ça, ils savent qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées par le problème. Bon, ça peut peut-être dégager des solutions après. Moi, c'est ce que je souhaiterais. Après, peut-être qu'on peut, sur le plan local, trouver des solutions, des fois un problème bien, bien précis, bien spécifique, dans un domaine bien précis.
De toute façon, il faut du temps. C'est vrai que déjà, c'est extraordinaire que les gens arrivent à se rencontrer, à commencer à pouvoir parler. La parole est fluide, je veux dire, parce que effectivement, quand tu dis il y a des gens timides, il y a des gens qui ont plus l'habitude de la parole, tout le monde arrive à s'exprimer, même quand vous êtes une quinzaine.
Bah, plus ou moins.
Ça fait éventuellement deux groupes.
Ouais, ça arrive.
C'est arrivé comme ça.
Oui, c'est bien ça.
Voilà.
C'est vraiment une bande de copains qui s'exprime.
Oui, mais c'est différent une bande de copains, parce qu'en fait, quand on est une bande de copains, on va rigoler. On va dérailler, mais en fait là on reste concentré. C'est ça que j'apprécie dans le lieu aussi, c'est qu'on est là 2 heures pour parler, quoi, pour parler, pour s'écouter. Et bon,
c'est bien, oui, parce qu'alors il faut qu'on revienne quand même sur quelque chose qui avait été dit dès le départ, je crois, par Mermet dans son premier appel à des amis de là-bas, si j'y suis. Je crois que tout de suite c'était orienté autour de Troquet. Hein,
oui, tout
lieu
à fait.
Convivial par excellence, café, ouais. Mais en même temps, ça aurait pu être totalement différent. C'est-à-dire que l'appel aurait pu être lancé, bah, réunissez-vous évidemment où vous voulez, ça aurait pu être la salle des fêtes, l'endroit. Et je crois qu'au niveau national, hein, tous les repères sont vraiment
cafés.
Ancrés dans des cafés, mm-hmm. Ce qui est assez important. Et ce qui m'amène aussi, en ce qui vous concerne, tu disais, tiens, j'ai pensé tout de suite au bistrot. Alors, c'est un endroit que vous fréquentiez déjà. Vous saviez déjà que le patron avait une sensibilité proche de la vôtre. Voilà, parce qu'on se demande
c'est
comment
ça
s'est fait.
Ça.
Parce que moi, par exemple, je ne connais pas du tout
ce lieu. C'est pour ça. C'est des copains d'attaque qui m'ont dit, va chez Christian, va au bistrot, il est super sympa. Il y a d'autres personnes de la même sensibilité que nous qui fréquentent le bistrot. Vas-y.
D'accord.
Je lui ai demandé, il m'a dit oui tout de suite. Y a pas de problème.
Mais ce qui fait que concrètement, parce que comment ça se passe, alors je vous demande à vous, parce que je me suis posé la question avant de savoir que le groupe Avray existait, quand j'entendais parler, tiens, on disait
comment
cet après-midi, tiens,
voilà,
j'entends, il y a un repère à Ploubalet, tu vois, à Ploubalet, comment ils font, dans leur petit café.
Il y a un repère de Ploubalet,
oui, ils en parlent souvent, hein,
oui.
Ils ont l'air acharnés aussi. Bon, parce qu'un café n'est pas toujours adapté à ça. Bon, nous, on a la pratique de faire tous les 15 jours une émission, bon, c'est une chose et tout, mais enfin ça s'est institué, ça s'est fait petit à petit, mais comment on arrive, parce qu'il y a d'autres clients, comment ça se passe,
c'est dans une arrière-salle, Julie.
D'accord.
Une arrière-salle qui est très grande, et donc qui peut contenir
le lieu
moins,
s'y prête, ouais.
Le lieu s'y prête, qui peut contenir au moins 40-50 personnes, si...
Ah ouais, d'accord.
Et puis c'est un look complètement rétro, il y a une âme, non, c'est un lieu sympa en plus.
Ouais.
Alors un soir, on s'est retrouvé en même temps programmé avec le café Philo.
Oui, oui, oui.
Ah ouais.
Pas le café Philo, le Philo Océane.
Philo Océane.
C'est pas
voilà,
pareil.
D'accord.
Ouais. C'est une association sur le Havre qui est super.
Le thème était tout choisi pour le coup. On a écouté la conférence et puis voilà.
Ah ouais, très bien.
Non mais c'était tout au début du café Repère. Christian du bistrot se rappelait plus que le mercredi c'était dans les premiers cafés Repère, qui s'était déjà engagé le mercredi pour le café Océane. Bon, j'ai dit, c'est pas grave, on annule le café Repère et on va à Philo Océane. Maintenant, là, c'est réglé, Philo Océane fera un autre jour.
De
et j'espère
façon,
au bistrot.
Ce qui est bien, parce que c'est vrai qu'on a un peu abordé, puis bon, on n'a pas fini avec ça, mais là-bas, si j'y suis, ça n'est pas seulement des questions de lutte sociale ou de lutte contre la globalisation capitaliste dans le monde entier, c'est beaucoup de choses. Et justement, la philo en fait partie, comme je dis, comme ça peut être la poésie, comme ça peut être l'érotisme, comme ça peut être beaucoup de choses. Donc effectivement, je suppose que vous n'êtes pas perdu avec ça.
Et moi, je voudrais dire que dans l'avenir, là, mon prochain chantier, je souhaiterais, et là je lance un peu un appel un peu aux gens qui rencontrent des difficultés dans le milieu hospitalier, parce que j'ai des échos de ce qui se passe dans le milieu hospitalier au Havre, que ce soit à Mono, à Pierre-Genet ou dans les cliniques. Donc je lance un peu un appel aux usagers et aussi au personnel qui travaille dans le milieu hospitalier, parce que justement d'aller à un café repère, ça serait vachement utile, qui nous donne des infos et qui diffuse l'info aussi. Un café repère, c'est ça. Là-bas, si j'y suis, c'est ça. Voilà, c'est... Comme dirait Mermet, je l'avais noté tout
vas-y,
quelque part. Merlet.
Jean-André va faire concurrence à Pascal avec ses fiches.
Voilà,
et
voilà,
les tourniers.
On intervertit nos papiers.
C'est pour ça.
Et Mermet, j'avais noté un truc qui m'avait plu de Mermet. Il avait dit que là-bas, j'y suis. Il avait donné une définition à là-bas, c'est j'y suis. C'est de faire d'un mur une porte. Voilà, c'est la définition que Mermet donne de là-bas, c'est j'y suis.
Eh ben, j'espère que ça pourra marcher en Palestine avec le mur qui va séparer les États-Unis du Mexique. Hein. C'est beau. Voilà. Faire d'un mur une porte.
Voilà, c'est.
Les excellentissimes King Size de Beauvais, mais je dis de Beauvais, mais bon, ils sont nationaux, ils sont internationaux. Ils en sont au moins à leur 6e album, cet excellent trio de rock'n'roll. Celui-ci, en l'occurrence, si je ne me trompe pas, ça doit être le 2e. Et évidemment, nous n'avons pas choisi ce morceau par hasard, puisque Valentine, c'est un morceau qui est dû à la basse si j'y suis. Puisque les King Size sont eux aussi, depuis vraiment le tout début, des auditeurs modestes et géniaux de là-bas si j'y suis. Et une des toutes premières émissions, enfin peut-être pas toute première, puisque ça se passe quand même forcément en 94, mais qu'avait fait Mermet, 93-94, bon, bref, rattrapez-moi, il était parti au Rwanda au moment du génocide. Des Tutsis par les Hutus, et en fait il y a eu quelque chose qui s'est passé en direct, c'est que voilà, l'équipe de là-bas si j'y suis avance, et dans un village ben, voilà, il y a des morts, et ils sont persuadés que c'est un charnier uniquement, et au milieu de ce charnier il y a une petite fille, et cette petite fille s'appelle Valentine, et c'est parce que l'équipe était là-bas que, enfin, entre autres, hein, vraiment, qu'elle a pu être sauvée, puisque voilà, ils se sont rendus compte qu'elle respire encore, etc. Donc, en l'occurrence, le morceau des King Size, puisqu'ils chantent en anglais, s'appelle Valentine, et c'est l'histoire de cette jeune fille. Et voilà, Philippe qui a écrit la chanson, le chanteur bassiste, avait été vraiment très marqué par cette émission-là de là-bas si j'y suis. Je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler du fait que quelques années plus tard, c'est-à-dire je crois il y a 2 ans, quelque chose comme ça, Daniel Mermet est reparti au Rwanda et a revu Valentine, qui va bien, qui est une jeune fille maintenant, une jeune femme plutôt, voilà, et que pour le remercier de tout ce qu'il avait fait pour elle, elle lui a offert une vache. Et voilà, et il faut savoir qu'effectivement, déjà offrir une vache en France, ma foi, c'est un cadeau quand même important. Évidemment, quand un Rwandais offre une vache,
imposant, tu veux dire, important, mais aussi imposant. Imposant.
Bah oui, non mais ça coûte très cher. C'est vraiment un très beau cadeau que évidemment Daniel Mermet a accepté avec grand plaisir, mais qu'il n'a pas, il ne savait pas trop quoi foutre en fait de sa vache, quoi, clairement. Et donc, dès qu'il a dit ça, bah, un auditeur s'est proposé pour dire bah, « Écoute, ta vache, si tu veux, moi j'ai un prêt, et voilà, ta vache venue du Rwanda, offerte par Valentine, elle pourra couler des jours paisibles dans mon champ. » Voilà. Donc c'est une belle histoire, et merci au King Size d'en avoir fait une chanson.
Tout à fait, oui.
Alors, donc, revenons au repère.
Moutons. Bah, non. Les vaches, ça va bien, ça va bien. Voilà.
On va revenir à nos moutons du repère. Ah, on parle de vaches, là, ça vous fait rire, ça vous fait sourire. Là, mais là, des moutons, non, un peu moins.
Des moutons, il y a des noirs. Moutons rebelles, voilà, des moutons noirs, voilà. Françoise. Effectivement.
Des moutons noirs, moutons rebelles du repère du Havre. En fait, vous, voilà, vous vous rassemblez toutes les semaines.
Voilà.
Vous voyez toutes les semaines. Dans le cadre du repère, c'est énorme. Déjà, nous, tous les 15 jours, faire une émission, des fois, on est un peu fatigué. Alors là, toutes les semaines, c'est pas. Est-ce que c'est un rythme qui est difficile à tenir? Est-ce que vous avez toujours des choses à dire toutes les semaines?
Tout à fait.
Est-ce que
on prépare rien. Non.
On prépare rien.
Ouais.
Non,
non, non, non plus.
Mais faut pas le dire. Non, non, mais là, effectivement, parce que notre surprise a été comment dire, due au fait que quand on entend sur France Inter les réunions des repères de la Bassigissue en France, généralement, c'est plutôt tous les mois. Donc, on vous a trouvé effectivement courageux et passionné.
Ben, si tu veux, on a voulu créer une dynamique, justement une dynamique due à cette régularité. Voilà, un point d'ancrage. Voilà, avec un jour fixe, une heure fixe, pour comme ça, bon, chacun a son planning dans sa vie. Comme ça, chaque personne est sûre, le mercredi, s'ils veulent venir, ils sont sûrs de qu'il y a le repère fonctionne, et voilà. C'est, ouais, et puis moi, personnellement, je me suis engagé à toujours être là le mercredi. Sauf exception, je suis toujours là.
Donc s'il y en a un, c'est Jean-André.
Voilà.
Et puis aussi le problème des rendez-vous le troisième mercredi du mois.
Oui, les gens oublient, c'est pas bon.
On se perd tellement qu'on s'est dit que ça serait plus sûr comme ça. Et puis on prend du plaisir à se retrouver toutes les semaines.
Donc c'est vrai qu'on prend du plaisir à se...
Ils prennent du plaisir dans leur club échangiste.
Pour un club de rencontres, moi je dis que c'est pas mal. Hein, tu vois,
je vous rappelle qu'il y a une grande salle, ils tiennent à peu près 40 ou 50 personnes. Bon, joyeuse santé.
On ne vous dit pas ce qu'ils font.
Mais ils ne se réunissent pas autour d'un grand lit recouvert d'une toile cirée. Contrairement à ce que font certains invités de là-bas si j'y suis. Mais bon, je vous renvoie une émission qui est en ligne depuis fort longtemps. Mais bon. Ah oui, quelle horreur. Bah oui, ben.
J'ai raté celle-là, je vois pas le coup de la toile cirée.
Bah, c'est-à-dire qu'après, il nettoie au jet, si tu veux. Mais voilà, eh oui, bah oui, bah, c'est pas de ma faute. Moi, j'essaie de retransmettre le plus fidèlement possible des choses que j'ai entendues dans l'émission. Hein.
Les clubs de rencontre ont besoin d'une infrastructure. Hein, c'est
bien. Tout à fait. Celle-là, elle est la plus modique, en tout cas. Voilà, voilà. Mais bon, ce qui nous éloigne, effectivement, de ce qui se passe au bistrot.
Et justement, cette dynamique, ce lien, ce ancrage, eh ben ça fait un.
Ce lien
Mais oui, ça fait un réseau. Ça fait un réseau et c'est le but du Café Repère.
Voilà, ça recommence, voilà, c'est la première. Ça va être comme ça toute l'année. On commence super sérieux et arrivé une certaine heure. Malgré les sujets sérieux, certains sujets de la radio.
Non, bah attends, tous les sujets, je suppose qu'ils sont traités à la fois par le repère du Havre et puis par l'émission en elle-même, sont pas forcément sérieux au sens dramatique du terme, je veux dire.
Ah, absolument pas.
Bon, heureusement d'ailleurs, parce que avec la grisaille et l'amorosité et ce qui nous attend au prochain tournant, on n'est pas quand même tellement gâtés. On a intérêt à rigoler parce que.
Heureusement.
Entre De Villiers, Le Pen, Sarkozy et Royal. Si vous trouvez des raisons de rigoler, faut se chatouiller un petit peu sous les bras. Enfin bon, Jean-André, je suis sûr que tu vas nous recadrer tout ça. Je le vois bien.
Non, mais on va pas te demander à toi de recadrer. On va le refaire quand même. Voilà, c'est notre rôle quand même, Juliette. Non, en fait, Le repère, il se situe là dans le bar, le bistrot qui est avenue René Coty. Est-ce que pour autant les gens qui viennent sont des gens du quartier, des gens de différents quartiers, Ou est-ce que il peut y avoir aussi bien des gens de l'avenir des Cotilles, de Cotrioville, de Montgaillard,
de Gonfreville,
d'une autre vie, d'une
autre vie.
Est-ce qu'il y a du covoiturage au moins?
Oui, tout à fait.
Oui.
oui aussi. Bien. Non, ça vient donc, des quatre coins du Havre.
Effectivement, il y a
presque.
Oui.
Tu le disais, il y a des hommes, des femmes, différentes professions.
C'est très mix et une mixité sociale et puis une mixité d'âge, de sexe, de tout. C'est très, non, c'est 50-50, c'est bien.
Bien que je suppose que la grande bourgeoisie ne soit pas énormément représentée.
Non.
Pour des raisons
qu'on ignore.
Ils ne captent pas France Inter sur leur colline. Là. Ça doit être pour ça. C'est pas les mêmes fréquences.
Ouais, France Inter, il faut quand même resituer les choses, qu'on l'écoute un petit peu moins ces temps-ci. Je trouve qu'on est quand même un petit peu plus de mal à écouter pour beaucoup. On se pose beaucoup de questions sur l'information. Oui, sur.
On a besoin de se recaler aussi, parce que comme la grille a changé... les journalistes sont plus nécessairement les mêmes. Il y en a des nouveaux, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont arrivés, il y en a qui sont plus aux mêmes horaires. Moi, je sais que par exemple,
t'es toute perdue.
Moi, je suis complètement perdue. Donc, je n'ai fait que recommencer à écouter France Inter ces dernières semaines-là. Je ne l'avais pas réécouté depuis cet été. Parce que j'avais perdu effectivement mes repères par rapport aux émissions que j'aimais bien. Là, il y en a certaines que j'ai retrouvées avec plaisir à d'autres horaires. Mais moi, j'ai besoin de me recaler aussi. Et je pense que il y a le fait que la grille des émissions est changée. Et puis aussi cette question sur l'information. Quelle est l'information qu'on nous donne
Se pose actuellement quand même pas mal de questions.
Et puis d'entendre des paradoxes énoncés à cette radio, c'est encore quelque chose qui me dérange énormément, quoi.
Qu'est-ce que tu veux dire par paradoxe sans vouloir...
Juste un exemple sur Internet. On a beau être, nous, une radio sur Internet. Il y avait une émission sur la consommation, sur la communication, c'était le matin... les gens disaient oui, les gens sont plus capables de communiquer autrement qu'en s'envoyant des mails, ils sont plus capables de se parler directement. Ils parlaient d'un livre, et ils donnaient pas le nom du livre, ni l'édition, ni où ça s'achetait. Ils disaient reportez-vous au site de l'émission. Eh ben non.
Quel manque de professionnalisme.
Oui, pour moi, c'est même pas un manque de professionnalisme, c'est un manque de bon sens. Comment est-ce qu'on peut faire une émission sur la désinformation, le manque de communication entre les gens et une certaine manière de penser et mettre en œuvre le contraire? Donc moi, ça m'a gavé, donc j'ai éteint, voilà, tout simplement.
En ce qui vous concerne, vous continuez à être quand même des fidèles auditeurs de France Inter, à part là-bas si j'y suis, ou vraiment... Parce qu'il y a eu aussi un moment cet été... Alors, bon, c'est très difficile à faire. Beaucoup de gens ont dit, j'ai pensé comme d'autres, vous peut-être. Bon, si c'est comme ça, si à l'arrêt s'en va, si là-bas si j'y suis change d'horaire, on va boycotter France Inter. Mais l'avons-nous fait ?
Alors, bon, ça a été un débat quand même au niveau des repères. Donc avec une amie donc qui est très bon, qu'on ne voit pas actuellement parce qu'elle a des soucis, mais qui était vraiment très accrochée à la nécessité de poursuivre. Son idée donc étant que il voulait changer le public. Hein, donc on a débattu. Moi personnellement, j'arrive pas à écouter actuellement France Inter. J'y trouve pas de.
Bon, j'ai dit que je me ferais l'avocat du diable. Je trouve que bien que Jérémy Guerrier, qui n'est plus là ce soir, DJ, qui a fait des études mathématiques et scientifiques, me disent que ça ne tient pas la route. Je trouve que La Tête au Carré, à 14h, est une émission, ma foi, relativement intéressante, qui aborde aussi bien des problèmes d'écologie que de médecine, que de recherche appliquée ou non, qui recevait par exemple, hier je crois d'ailleurs, Fischetti et Lecointre de Charlie Hebdo, qui font la rubrique scientifique de Charlie Hebdo et qui ont sorti un livre. Bon, disons, sans faire le tour hein, de toute la grille de France Inter, je trouve que cette émission tient relativement la route, et que et pourtant elle tourne, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cette émission qui passe à 18h désormais, donne quand même une vision de l'actualité internationale, enfin, je trouve que c'est une vision géopolitique qui n'est pas si éloignée justement de là-bas si j'y suis. Enfin, bon, un point de vue. Non, pas plus.
Bah on l'écoute moins.
Je me prends un bide. Hein,
en fait, t'es la dernière à écouter France Inter.
Non, non, moi, je ne vais pas être solidaire volontairement avec mon amie Juliette, mais c'est vrai que c'est aussi deux émissions que j'écoute et que j'apprécie. Moi, il y a les deux autres. Enfin, il y a la bande à Bono. Non. Moi, il y a des choses que j'aime. Il y a des choses que j'aime bien dedans.
Quelqu'un qui connaît des choses qui sont bien, mais ils ont un ton à ricaner voilà. Pour faire dire le truc détendu, ah oui. C'est insupportable.
Quelqu'un que Letty connaît bien a dit que c'était du du fou du roi amélioré.
Oui, voilà, eh bien oui. Voilà, tout à fait.
Voilà. Bon, alors il y a de ça. C'est quand même plus pertinent. Bon, oui. Vite fait, je trouve que le cassage de Bruckner récemment et la réhabilitation de deux personnes qui ont écrit un bouquin sur le terrorisme en démontant totalement, comment dire, le fait que ça devait être le choc des civilisations, la chose la plus importante de la décennie, voire de la fin du siècle. Je pense, bon, il y a des choses de temps en temps intéressantes. C'est vrai que parfois traité sur un mode un petit peu trop comment on peut dire oui ricaneur comme tu dis c'est, ouais, effectivement.
Il y a 2000 ans d'histoire aussi
toujours
ça se tient
heureusement.
Frédéric Lodéo avec Monsieur X, quel dommage.
Interfusion qui est une bonne émission.
Rendez-vous avec
matin.
Monsieur X,
on en parle peu de Frédéric Lodéo, ouais, pourtant. Non bah il y a notre ami José Arthur qui est très bien le vendredi Non. Bon,
moi, j'aime bien Panique au Mangin, pardon.
Au niveau des horaires, ouais, je suis d'accord. Il y a quelque chose. Il y a des émissions intéressantes. Celle que tu dis à 14h. 14h, ce n'est pas un horaire possible pour les personnes qui travaillent.
Non, c'est clair.
Donc, comme là-bas, si j'y suis à 15h, sur des plages horaires.
Interception le dimanche matin, c'est pas facile.
C'est pas facile.
Alors que Sylvestre. Voilà. Bon, c'est quand on veut.
Voilà.
Non, mais plus sérieusement, effectivement, pour en revenir à là-bas, si j'y suis, bon, voilà, je pense que vous comme nous, on est en attente d'en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe réellement. En tout cas, bon, grâce à vous, on sait qu'il y a un relais, effectivement, sur le fait que si il y avait une volonté déterminée de dire maintenant changement de tranche horaire, moins de public, donc. Vous allez bientôt dégager. Bon, on peut penser qu'il y aurait dans ce cas-là un grand mouvement quand même de solidarité, de protestation.
Il a été évoqué l'idée aussi dès la rentrée, c'était de faire une manifestation à la maison de la radio. Donc cette amie donc avait lancé un appel auprès des repères. Bon, c'était trop tôt, ils n'avaient pas tous ouvert, donc elle a eu peu de retours. Donc je pense
ça
que cette
idée-là.
Alors, Daniel Mermet s'y est opposé, hein, déjà au mois de juin. On va voir si effectivement il faudra la relancer à un moment ou à un autre.
Ah, Pascal, tu voulais dire quelque chose ?
Non, je voulais juste demander si jamais l'émission s'arrêtait. Ah, est-ce que vous continuerez quand même ?
Grosse question, je me suis posé la question.
Est-ce que les repères continueraient ?
J'ai attendu septembre, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait si Mermet n'accepte pas 15h ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bah, je crois que les repères, ça serait fini aussi. Hein.
Ce qui serait,
pas le soutien de l'émission,
ce qui serait fort dommage.
Bah oui.
Ce qui serait fort dommage.
Mais parce que ce serait l'occasion de faire perdurer. Forme, voilà.
C'est une forme associative, on continuerait certainement comme ça, une autre forme.
Du coup, tiens, je pensais pas à ça tout de suite, mais je vais peut-être quand même embrayer là-dessus. Je pense que vous avez fait partie des gens qui ont soutenu les collectifs pour le non au traité constitutionnel européen. Et ces collectifs, ma foi, ont un petit peu du mal à redémarrer. Bon, j'entends dire, notamment dans Politis, que malgré tout, ça repart et il est bien temps, parce que là, on est quand même face à des échéances, même si les échéances présidentielles, bon, pas forcément les plus représentatives de la démocratie comme on la voudrait, mais enfin, que les collectifs repartent. Est-ce que c'est dans votre esprit, au repère local de là-bas, si j'y suis, de travailler dans ce sens-là pour, bon, voilà, pour les collectifs à la gauche de la gauche, dans la continuité de ce nom ? De faire quelque chose. Sylvie.
Non, moi je peux répondre que personnellement, si tu veux. Il y a 8 jours, je suis allé à la réunion du collectif du 29 mai, là, au Havre, là,
ouais.
qui se passait dans le quartier de l'Eure. Mais bon, Sylvie était avec moi et qui a été refusée à la salle Franklin. Donc la réunion s'est passée dans le quartier de l'heure. Bon, moi je peux répondre qu'à titre individuel, moi je suis dans cette mouvance-là, si tu veux, dans le collectif du 29 mai. Mm. Bon, dire que globalement, les gens qui fréquentent le Café Repère sont aussi dans cette mouvance.
Tu peux pas
ils en sont pas loin, mais d'accord. Je peux pas répondre. Voilà.
D'accord.
Mais globalement, ils en sont pas loin, je dirais.
Non, je dis ça parce que bon, il me semble que voilà, la sensibilité générale,
oui.
Non seulement de l'émission, bien sûr, mais des auditeurs, de ce qu'on peut entendre sur le répondeur, était plutôt pas totalement, mais enfin,
oui.
Plutôt pro-non.
Voilà,
si
voilà.
On peut dire ça comme ça,
voilà.
Et donc dans l'idée de continuer après le 29 mai.
Voilà.
Bon, après on sait tous les difficultés qu'il y a à continuer à se mobiliser.
Voilà. Et voilà. Dégager une candidature unique de la vraie gauche, quoi.
Voilà.
Ça sera pas facile, mais il paraît, de ce que j'ai appris à cette réunion il y a 8 jours, c'est qu'à Paris les choses sont en train de se détendre et petit à petit il y aura peut-être un accord bientôt.
On ose espérer.
Au niveau national pour le 29 mai.
Je ne sais pas, mais Sylvie, tu étais en train de donner une information qui est...
Oui, qu'on peut emprunter des DVD, notamment en Brésil.
À la bibliothèque municipale.
À la bibliothèque municipale, rue Gustave Brindeau.
On n'encouragera jamais assez nos audinotes à aller dans les bibliothèques municipales. D'ailleurs, je me fais en cela le relais de Azouz Bega qui, pas plus tard que dimanche dernier, disait... Comment, moi, l'arabe alibi du pouvoir, mais vous me prenez pour qui? Moi, j'en ai plein du pouvoir, puis j'arrête pas de le dire. Les bibliothèques, ça, c'est super important. Ça, c'est mec, on sent qu'effectivement, il a un poids politique énorme. Enfin bon, ce qui nous éloigne pour le coup de la chronique polar de Pascal.
Et oui, tout à fait. Donc, ce soir, on va faire une chronique sur un polar qui s'appelle Panne sèche, en français. Qui est paru la série noire, déplorable traduction à mon avis de quelque chose qui s'appelle en américain Mort van Vecou de Chou, qui veut dire à peu près pour qu'il pourrait
planter
mâcher,
des choux,
plus qu'il pourrait mâcher.
Ah oui,
plus qu'il pourrait mâcher si tu veux. Donc panne sèche, je vois pas du tout ce qu'il va faire là-dedans, surtout quand tu lis le polar.
En effet.
Oui, mon
seul l'aurait plus fait déjà, oui, peut-être.
Parlez pas dedans. Bon,
alors c'est un auteur qui s'appelle Rob Roberge.
Ça globalement.
Hein, donc en fait, c'est le premier roman de Rob Roberge qui paraît en français, qui est un auteur qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant, puisque c'est son premier roman, forcément.
Bah, du coup.
Donc, on sait qu'il est américain quand même, romancier, scénariste, joueur de guitare dans un groupe de rock'n'roll.
Non.
Et qu'il vit en Californie.
D'accord.
Donc, je pense effectivement que ce monsieur, on va en reparler très vite fait, parce que son roman est tout à fait étonnant. Loufoque, déjanté, bourré d'humour noir, provocateur et constamment en équilibre sur le fil du rasoir pour tenir l'intrigue jusqu'au bout. On attend son deuxième qui va à mon avis paraître dans peu de temps. On sait déjà qu'il s'appelle Drive, qui se passe un polar qui se passe dans une équipe de basket visiblement de bas de zone, bas de gamme, et ça a l'air très intéressant. Le quatrième de couverture de ce polar-là indique que c'est la rencontre entre les Pinnickley et Bib Lebowski des frères Cohen. Je ne sais pas si vous avez vu le film Bib Lebowski des frères Cohen, où vous voyez à peu près le réseau de personnages qu'il y a dedans. Voilà. Je rajouterais, moi, qu'il y a une bonne louche de Westlake, une pincée de Burroughs, William Burroughs, hein, pas Gerard Burroughs, le créateur de Tarzan. Lié tout ça à la sauce Palahniuk, hein, qui a fait Fight Club, hein, qui a écrit Fight Club, entre autres. Je ne sais pas si vous voyez Fight Club, non, non.
Moi, ça me rappelle un prix Nobel récent, mais ça ne doit pas être ça.
Non, ce n'est pas ça du tout. Non, Fight Club, c'était un film après avec Edward Norton. Et,
Mais tant pis.
Mais qui était quand même assez subversif. Et le couvercle de la marmite saute, mon cher Ludo, avec tout ça. Voilà. Et pour vous mettre un petit aperçu de l'histoire, pour vous mettre l'eau à la bouche, c'est simple. Nigret est un monteur de cinéma. N'est-ce pas, Ludo ? Le problème, c'est qu'il est un loser. Toute sa vie, il est un loser.
Cinéma,
le boulot, c'est pas du tout sa tasse de thé. Hein. Ce qu'il préfère comme liquide, c'est plutôt le carburant de fusée.
Ah ! À la sienne.
À la sienne, n'est-ce pas ? Et en plus, il se drogue. Le pauvre. Ce qui fait plaisir, forcément, ce qui fera plaisir, forcément, à Nico, notre brave Nico national.
Nico qui se drogue.
Nico Sarko, qui aime bien, qui interdit la fumée. Non, mais il interdit la fumée partout, Nico.
Oh, oui, d'accord.
Donc, par contre, il est bon, question fumée, il n'est pas mal non plus dans le genre. On fait de la fumée autour de sa politique, un maximum.
Waouh. Ah ouais, non, mais lui, il fume. Hein. Ah.
Bon, ça y est, voilà. Allez, d'accord.
Lui, il a préparé sa chronique. Elle
se demandait si c'était teenager. Parce que nicotinager, non, c'est nicotinager, c'est pas compliqué. C'est pas mal non plus celle-là, elle est nulle, bon d'accord.
Non, très bien, très bien.
Non, c'est que là, nous, on n'est pas à ce niveau-là, si tu veux. Hein,
on a perdu l'habitude, c'est tout.
Bien. Donc, Nick, ils ont perdu son travail, parce que c'est vraiment un loser.
Juliette.
Il n'a pas tout perdu, en
fait. Non, mais il a perdu sa femme aussi en même temps.
Non. Donc, Nick a perdu sa femme.
Voilà, je veux aussi, d'ailleurs, sa brave femme qui dit « Nigret, c'est le gus qui vous plantera toujours. » Nick a son charme, mais ce n'est pas le bon cheval. Même dans une course bidonnée, il trouvera le moyen d'arriver deuxième. Du coup, voilà notre poulie d'or américain qui végète comme portier de nuit dans un hôtel en instance de démolition à Long Beach, petite station balnéaire californienne qui est vraiment sur le déclin. Sauf que le brave Nick, il tombe par hasard sur un vieux stock d'ordinateurs du FBI renfermant une liste de personnes...
Disparues ?
Non, de témoins. Ainsi que de leurs nouvelles adresses, témoins dans les procès. Et donc il se dit, jackpot, on va les faire chanter, eux qu'on balançait avant. Donc on y va sec. Sauf qu'il s'associe à deux personnages qui sont ses deux potes.
Hein.
Oui, bien sûr.
Bah oui, ils sont.
Ils s'associent.
Deux personnages qui sont ses deux potes, en fait, jouent le bras aux asticots.
Ouais.
Joue le bras aux asticots.
Le bras, c'est comme tu veux. Sans qu'on l'a pas lu, alors tu peux nous raconter ce que tu veux. D'accord.
Ancien avocat devenu junkie, qui suite à une mauvaise piqûre, a une nécrose à son bras.
Alors, avocat un jour, avocat toujours.
Du coup, un toubib, bah, il lui fait subir un traitement pas piqué des vers.
Pas piqué des veines ou pas piqué des vers ?
Des vers. Des vers, parce qu'en fait, le toubib lui dit, bah, pour éviter que la nécrose s'installe de plus en plus, on va vous installer un pansement avec des vers dessous qui vont manger la chair. Les
mais nécrosés. Non, mais c'est vachement bien, tu rigoles, mais c'est vrai, il paraît que c'est, hein, que c'est vrai.
Bon. Donc, bon, c'est, en fait, c'est de l'asticothérapie.
Ouais.
Voilà. Donc,
bah oui,
bah, oui, donc ouais. Il se trimballe avec un pansement.
C'est pas de la science-fiction.
Il change régulièrement avec des vers dessous qui grossissent.
Si vous écoutiez la tête au carré, vous sauriez que. Bon.
Et ça nettoie, en fait, la plaie. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Joe, le bras, l'homme au bras, l'astico. Voilà, et il y a Sergueï aussi, qui est un russo batave, gonflé aux stéroïdes, flambeur et quelque peu psychopathe. Quelque peu, quand on dit quelque peu, c'est quand même pas mal. Autant vous dire que le plan, il va tourner vite fait à n'importe quoi. N'est-ce pas? Tu peux me refiler ma feuille, je te remercie. Parce qu'on va encore dire
que je trouve que c'est dégueulasse de saborder les chroniques des autres.
Plus de mots.
Non, il n'y en a plus, d'accord. Donc on se trouve là devant un polar extrêmement drôle. Pourtant très très noir, une galerie de portée incroyable dans ce style, bon, effectivement, ce qu'on peut trouver avec Pieds Nickelés,
Westlake, etc. Big Lebowski.
Mais que jamais Rob Roberge ne juge. C'est-à-dire que c'est des personnages, effectivement, qui sont délaissés pour compte d'une Amérique qui est faite pour les gagnants, point la ligne. Les autres, bah, ils se débrouillent comme ils peuvent, même si c'est des losers. Et pourtant, ces losers-là ne baissent jamais les bras. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans la merde. Ils savent très bien que, bon, ils ont un comportement de loser et qu'ils vont perdre à chaque fois, mais jamais ils ne baissent les bras. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est là que ça rend hommage vraiment au laisser pour compte.
Je ne baisse pas les bras.
Voilà, non, je sais, mais toi, c'est normal. Tu fais de la muscu aussi, toi. Et donc, c'est ça qui est hyper intéressant dans le roman, c'est que, en fait, c'est un hommage avant tout au laisser pour compte de cette société américaine, bah, qui est faite pour les gagnants, et eux, bon, se retrouvent complètement en marge. Et ils ont beau avoir des galères pas possibles, eux restent à leur façon dans le combat permanent de cette vie, même si, bon, ils passent par des moyens effectivement un peu étranges. Mais bon, c'est très bien. Donc, entre le choix de Nick Trey, éternel perdant, mais effectivement, il y a toujours la volonté de s'en sortir, et Nico Sarko, éternel justicier bien pensant, mon choix est vite fait. Et vous?
Mais le nôtre, voilà, aussi, Pascal.
Je vous laisse réfléchir là-dessus. Moi, je vais prendre un petit coup de vin pendant qu'on peut encore boire du vin dans un café, ce qui n'est pas toujours sûr dans ce printemps. Et je vous laisse là-dessus. Merci, au revoir.
Bravo, alors. Et bravo à ce non-fumeur rebelle pour cette ode quand même à la liberté. Merci Pascal, une fois de plus. Il faudra quand même s'habituer à une chose, c'est que il n'y a pas que en Amérique tout est fait pour les gagnants, en France aussi. Et d'ailleurs, on peut le dire, nous aussi en Lozère, on continue à lever les bras. Franklin. Et comme vous le savez tous, à un moment, elle a été mariée avec Sean Connery. Mais bon, je n'en dis pas plus. Nous sommes toujours avec Jean-André, Françoise et Sylvie du repère à vrai de là-bas si j'y suis. Et effectivement, nous disait pendant le morceau que ce qui est quand même extrêmement important, c'est de combattre la désinformation, voilà, qui sévit. Enfin, on va dire, parce que désinformation, finalement, l'information qui est quand même au service du pouvoir, quoi.
Voilà, qui est mal rendu. Donc c'est soit c'est de la malinformation ou soit c'est volontairement de la désinformation. Et nous, ce qu'on voudrait au Repère du Havre, justement, c'est trouver les moyens pour dénoncer ça sur le plan local, dans tous les domaines de la vie locale. Et pour ça, on a besoin de coups de main, on a besoin de gens qui viennent nous voir, qui nous informent et tout ça. Et je vous prends un exemple là. Je parlais tout à l'heure que pour moi le prochain chantier, ça allait être les hôpitaux. Et j'ai eu une information comme ça il y a un mois à peu près, où on me faisait savoir, par exemple, qu'à Pierre-Janet, aux urgences de Pierre-Janet, c'est ça, l'information date d'il y a un mois, mais qu'il y avait 9 personnes dont on ne s'intéressait pas aux urgences de Pierre-Janet, qu'on laissait complètement tomber. Voilà, moi je trouve ça scandaleux. Lorsqu'il y a des gens qui sont au courant de ça, s'ils peuvent venir nous voir, que ce soit du côté des familles, du côté des soignants, et puis aussi à Mono et aussi ailleurs. C'est un exemple hein, parmi tant d'autres. Et puis aussi dans d'autres domaines, dans le logement, dans les usines.
C'est très important. D'ailleurs, tu rejoins deux thèmes vraiment qui nous tiennent à cœur. Alors, il y a un problème en ce qui nous concerne, on lance un appel conjoint avec vous. Parce que c'est vrai que ça fait au moins 2 ans.
Oui.
Qu'on devait faire une émission sur la santé.
Oui.
Parce qu'on avait entendu parler de différents problèmes concernant la santé publique en France et notamment au Havre. Et puis malheureusement, les intervenants ne sont pas encore proposés. Et donc, écoutez, si vous les rencontrez avant
tout
nous,
tout à fait, hein, bon, on te le dira.
On est vraiment d'accord pour après
on t'avertira.
Que ça puisse faire une émission ici tout à aussi, fait. Parce que c'est vraiment très important.
Tout à fait, et c'est grave, je dirais.
Ouais.
C'est pas, seul, pas sûr qu'on puisse
c'est
faire
très grave.
Émission. Il faudrait faire plusieurs émissions.
Oui, tout à fait. Le problème est très
probablement
grave.
Probablement dans tous les secteurs, c'est vraiment
un volet d'émission. Et effectivement, je reprends aussi sur le logement, parce que justement, quand on parlait du camping de Montjean, du camping
c'est
de Saint-Jean,
c'est un problème de logement.
En ce qui concerne le local, c'est vrai que là aussi, il y a eu une très bonne émission, enfin plusieurs émissions très intéressantes de là-bas si j'y suis, hein, qui parlait notamment de campings dans le sud, où justement, il y avait des résidents à l'année et des difficultés énormes, avec des gens qui avaient des retraites tout à fait dérisoires, parce que, par exemple, femmes d'artisans, pendant des années pas déclarées, donc se retrouvent à être obligées de terminer sa vie en mobil-home, etc., des saisonniers. Ça, c'est un problème national. Il y a eu des émissions de là-bas, si j'y suis, sur aussi... un camping différent qui était détruit pour faire place à de l'immobilier, ce qui est peut-être, on ne sait pas, on va pas s'avancer, ce qui pourrait guetter
le camping de Montjean.
À Montjean. Donc effectivement, ça se rejoint. Et nous, on avait envie ici, c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu disais, Jean-André, de faire aussi des émissions en plusieurs volets sur le problème du logement en général, du mal logement. C'est-à-dire, on voudrait parler à la fois des résidents des campings, parler aussi de ce qui se passe avec les rénovations, les projets immobiliers, quartier de l'Eure, dit quartier Saint-Nicolas, quartier des Neiges, une certaine manière de chasser les pauvres du centre-ville. Là encore, on se retrouve avec une émission de là-bas, si j'y suis, qui a beaucoup parlé de Marseille.
Tout à fait,
Avec
la rue de la République à Marseille.
Et puis, un troisième, si on en a les moyens, parce qu'on peut pas trop s'avancer, on est tous une équipe de bénévoles pas très grande non plus, on n'a pas des grands moyens journalistiques, on va dire. Parler aussi dans une troisième phase, disons, de cette chose sur le logement, des gens du voyage et des forains.
Tout à fait.
Ce sont déjà deux
fait.
Thèmes différents, mais enfin voilà.
Tout à fait.
Donc je pense qu'on a effectivement des affinités par rapport à ça.
Il y a du travail à faire.
Ouais.
Alors, concernant le logement, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le redire, donc je dis ce soir, je voudrais quand même qu'on réfléchisse à savoir qui profite de la location logement. Est-ce que c'est la locataire, on parle souvent de la locataire comme bénéficiaire, alors qu'en fait, il me semble que lorsqu'on parle du logement insalubre et précaire, le bénéficiaire, c'est le bailleur. Là, je crois qu'il y aurait vraiment un bon dossier à constituer, à savoir qu'est-ce qui se passe et que font-ils de tout cet argent qu'il leur est donné.
Justement, quand vous parlez de ça, alors est-ce que déjà au sein des personnes qui font partie du repère Havrais ou par des connaissances que vous pouvez avoir au niveau professionnel ou autre, vous avez déjà des gens qui sont capables de d'avoir des arguments précis sur ce type de sujet, parce que c'est assez difficile. Je veux dire, on peut parler en règle générale, de ce qui nous révolte, de ce qu'on sait, de ce qu'on entend.
voilà, par certains médias, ou ce qu'on voit dans la réalité locale, mais comment, pour faire de l'info, hein, je veux dire, comme
vous disiez, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des gens voilà. qui viennent nous voir, ça voilà, pour nous donner l'information.
D'accord.
Est-ce que justement, par exemple, sur une question telle que le logement, est-ce qu'on peut imaginer qu'un repère invite une association du droit au logement pour venir l'informer justement sur les droits et sur ce qui existe pour défendre des locataires? Est-ce que ça peut se faire, ça, dans un repère, d'inviter une association, par exemple, telle que le DAL?
Oui, je pense qu'on peut le faire.
Parce que je pense que c'est plutôt... Évidemment que des individus qui se retrouvent pour parler d'un sujet précis, par exemple, tel que le logement... Chacun a des informations différentes et le but, c'est de les mettre en commun et d'essayer d'en faire quelque chose. Mais je dirais que pour être le plus opérant possible et être le plus efficace, c'est peut-être aussi bien de s'adresser à ceux qui connaissent et qui maîtrisent cette information-là, par exemple, en termes de logement.
Oui, tout à fait.
On parlait de liens tout à l'heure.
Voilà, les liens, c'est ça.
Je repensais d'ailleurs par rapport à comment, enfin, dans le peu de choses qu'on a pu faire. On a parlé donc du soutien à l'émission. On parle du camping actuellement, mais il y a eu aussi le soutien par rapport au parking payant de chaque mono. Des personnes sont venues nous dire, mais bien tel jour on fait telle manifestation, d'accord, et donc on a participé.
Oui, voilà. Le café Repère y est allé à la manif du parking de mono.
Ce qui m'amène à autre chose que je voulais vous poser en fait depuis longtemps, c'est comment vous arrivez à relayer ce que vous faites? Parce que bon, évidemment, ça fait seulement quelques mois, mais c'est déjà beaucoup. Est-ce que vous distribuez des tracts, des flyers? Est-ce que vous avez des bonnes relations avec les médias locaux? Comment ça se passe pour relayer cette information?
Alors, pour nous faire connaître, comme j'ai dit, numéro un, c'était le répondeur de l'émission, hein, de la base de suivi, bon, ça, numéro un. Puis après, on a fabriqué des flyers. Donc qui annonce le repère tous les mercredis au bistrot, qui donne les coordonnées donc du repère.
D'accord.
C'est notre seul moyen de depuis maintenant.
Que vous distribuez par exemple
à la bibliothèque, à la bibliothèque, à la galerne, à la mairie, des trucs comme ça.
Voilà. D'accord. Et vous avez déjà été contacté justement par des médias?
Non,
pas encore
du tout.
Vous avez été à leur
non, on n'est pas
allés. On
les a pas sollicités.
Vous le souhaitez ou pas du tout?
Il y a une journaliste qui nous a contacté au camping, là, qui est Patricia Lyonnais, nous l'a proposé. Moi, je n'ai pas proposé du tout, au contraire.
D'accord.
Elle veut faire un petit reportage de Café Repère. Bon, pourquoi pas, mais.
Et si, par exemple, je sais pas, l'équipe de France 3 BSN vient vous rencontrer,
pourquoi
vous
pas.
Sentez prêt à...
Maintenant qu'on a fait Apple Pie, on est entraîné maintenant. Ça y est, on a pris l'entraînement.
Bon, écoutez, si au moins l'émission aura servi à ça, et de dire les grands professionnels communication. En tout cas, non, mais c'est vrai, parce que vous pourriez souhaiter, à la fois que des gens vous rejoignent,
mais
forcément.
Moi, j'aime pas les touristes, j'ai un peu peur des touristes et des curieux. Je veux que le bouche à oreille, c'est très bien, enfin, bon, des gens qui se sentent concernés. Tiens, il y a un café repère, j'écoute là-bas si j'y suis. S'il y en a un au Havre, j'y vais. Je préfère un peu ce mode de fonctionnement-là que le touriste, le machin, je vais aller voir ce que c'est.
Ouais. Oui, parce qu'après, il peut y avoir un espèce d'effet Mais ce que je me demandais, je disais en introduction, je disais Cambrousse, mais c'est vrai, on entend, je citais Ploubalet tout à l'heure, qui sont particulièrement dynamiques, mais c'est vrai que parmi les premiers repères, on a entendu parler de gens dans des coins vraiment reculés, où on sent bien que l'auditeur est seul, ou l'auditrice, je rentre, je sais pas, de ma visite d'infirmière et je me retrouve dans mon petit hameau, j'écoute là-bas si j'y suis, puis à qui je peux en parler dans mon bled. Donc, les gens ont vraiment besoin de se rencontrer. Ici, je suppose, vu le taux d'écoute quand même de là-bas si j'y suis, au Havre, il doit y avoir un nombre énorme de gens qui écoutent là-bas si j'y suis. Et on est loin, comme nous, de les connaître, quoi. Donc,
je pense.
Il faut quand même que ça se sache pour qu'ils arrivent.
Je pense, oui.
Françoise. Je sens dubitatif sur ce coup-là.
Enfin, moi, j'étais surprise de voir le nombre de personnes qui sont venues.
Spontanément, voilà. On ne connaissait pas, en dehors des copains.
Énorme.
Que...
C'est ouais. Énorme. Moi, je, oui, oui.
Moi, je pensais qu'il y en aurait plus, moi.
Toi, tu pensais qu'il y en aurait plus, tu vois.
Je pensais qu'étant donné qu'il y a beaucoup d'auditeurs sur l'app, je pensais qu'il y aurait plus de curieux, plus de gens qui avaient envie de partager ça. Que... On est un petit nombre, c'est sympa, hein, mais oui, c'est vrai que je pense qu'on pourrait...
C'est peut-être comme dit
mais plus nombreux, après,
Juliette, on a
autrement.
Passé médiatiser le repère. Ouais.
Mais est-ce qu'aussi, parce que même dans les gens qu'on connaît, bon, Sylvie, on se connaît quand même depuis un moment, il y a des gens dont on sait très bien dans nos proches qu'ils écoutent là-bas si j'y suis, et qui apparemment ne participent pas au repère. Est-ce que vous en connaissez, vous aussi, Françoise et Jean-André, des auditeurs, mais qui disent « Ouais, c'est bien que vous fassiez ça, mais moi, je viens pas. »
On passera. Oui, je passerai un de ces jours. Aussi, en fait, c'est un petit peu ça. Et puis, bon, bah, les gens ont aussi leurs occupations, leur rythme. Ils pensent pas à venir au bistrot.
Et puis, qui n'ont pas l'esprit militant, sont un peu passifs. Quoi,
peut-être sur la durée que ça va s'installer.
Peut-être, oui.
Ou justement parce que les gens croient qu'il faut avoir l'esprit militant, alors que
vous
disiez
tout à
l'heure, c'est pas obligé.
C'est un lien.
C'est peut-être ça.
C'est un lieu d'information, un lien.
Pouvoir se rendre compte qu'on peut juste se rencontrer.
Voilà.
Et puis, ouais, discuter de sujets qui ne seront pas discutés ailleurs.
Par contre, il y a eu quand même pas mal de personnes qui sont venues déterminées, mais engagées par ailleurs dans pas mal d'assauts, et donc qui sont obligées de sélectionner.
Ça c'est très bien que vous souligniez ça, Françoise. Alors, par contre, voilà, ce que je trouve qui est bien, justement, c'est que vous ayez autant de monde, parce que justement, on connaît tous ces problèmes-là, et puis obligatoirement, quoi. Des gens qui vont, à la fois militer dans leur syndicat, enseignants ou ouvriers, et qui font partie de Réseau Éducation Sans Frontières, de ceci, de cela, enfin de France Palestine Solidarité. Bon, les gens ne peuvent pas se démultiplier. Mm-hmm. Du coup, peut-être que cette possibilité que des gens qui ne sont pas des milliards de guillemets encartés auront plus de disponibilité, peut-être pour typiquement. Vos rencontres.
Peut-être, oui. Certainement, oui. Tout à fait.
On va écouter le morceau suivant. Alors, je crois que c'est encore Sylvie qui l'a choisi. Et puis, on va parler de vos projets directs d'avenir avant de passer, pour conclure l'émission, à la fabuleuse chronique de Cinémabis de Ludo. Mais on n'en est pas encore là.
Play that tarantella, all the hounds will start to roar. The boys all go to hell, and then the Cubans hit the floor. They drive along the pipeline, they tangle till they're sore. They take apart their nightmares and they leave them by the door. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks a bed on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past, and send me off to bed forevermore. Make sure they play my theme song, I guess daisies I have to do. Just get me to New Orleans and paint shadows on the pews. Turn the spit on that pig and kick the drum and let me down. Put my clarinet your bed till I get back in town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks or better on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore. Just make sure she's all in calico and the color of a doll. Skillet on the wall. Cut me a switch. Oh, hold your breath till the sun goes down. Write my name on the hood. Send me off to another town. And just let me fall out the window with confetti in my hair. Deal out jacks a better on a blanket by the stairs. Tell you all my secrets, but I lie about my past. Will you send me off to bed forevermore? Thank you. up my path, send me off a bed forevermore.
Il n'y a pas de Fabrice au repère. Eh ben, c'est un appel que je lance parce que Fabrice, si tu nous écoutes, je sais que tu écoutes là-bas si j'y suis. Je sais que tu écoutes Radio Apple Pie. Je sais même dans quelle entreprise tu travailles. Tu as des choses à dire. Ils t'attendent. Ils t'attendent et ben, en fait, pour vous laisser la parole pour conclure, c'est évidemment ça que vous nous disiez, que vous attendiez du monde. Et que vous vouliez dire que, justement, le répéter peut-être, c'est un endroit de parole, c'est un endroit de convivialité.
Voilà, un endroit de parole, un endroit de convivialité. Et puis bon, ça fait tout, c'est sympa de se retrouver tous ensemble, à discuter pendant deux heures, et puis de voir en fin de compte qu'on a beaucoup de choses en commun. C'est surtout ça, c'est bon, ça permet de continuer là-bas si j'y suis, et puis d'avoir une action militante ensuite ou pas. C'est... Un lien, moi c'est ce que je dirais, qu'est-ce que c'est le repère, c'est surtout un lien, là, un lieu de rencontre, on se répète.
Non mais c'est important, j'espère que l'appel est bien entendu, à la fois dans le bar de l'Apple Pay, et sera entendu par nos audinotes.
Hein. Je sais pas si on se répète, je pense que l'essentiel a été dit de toute façon par Daniel lorsqu'il a lancé ça. Rencontrez-vous, partagez, faites des choses ensemble, faites circuler l'information, voilà. Combattre la malinformation. Voilà, il y a du boulot et c'est un peu ça, c'est grand, ça fait un grand projet, puis c'est petit à la fois, ça a l'air de rien ces rencontres à toutes les semaines.
Ça me fait penser à un bouquin qu'une amie à moi m'a offert samedi, qui s'appelle Véronique, je la salue, c'est à mon temps, et elle m'a offert un bouquin que Daniel Mermet recommande et qui s'appelle Les chiens de garde.
Tu connais
Juliette,
les chiens de garde. Les nouveaux chiens de garde.
Voilà, les nouveaux chiens de garde.
D'ailleurs,
tu penses justement sur ce que vient de dire.
Ouais, je suppose que t'as
la malinformation et la désinformation.
La version réactualisée.
Voilà.
Parce que un petit point sur cette histoire qui est assez importante. Bon, un petit point. Vite fait, on a dit qu'on serait synthétique ce soir, mais c'est difficile. Paul Nizan a écrit. Je ne sais plus la date exacte, les chiens de garde.
Oui, oui.
Qui étaient les chiens de garde du capitalisme en parlant des philosophes de l'époque. Oui. Voilà. Paul Nizan, qui était un ami de Sartre et qui a connu une fin difficile. Un homme qui a écrit, entre autres, Aden Arabi. Bon, voilà, il avait écrit les chiens de garde. Beaucoup d'années plus tard, Serge Halimi a écrit Les Nouveaux Chiens de Garde.
C'est Serge Halimi qui
voilà,
m'a offert.
Très, très intéressant. Serge Halimi. Un bourdieusien devant l'éternel, si je puis dire. Et il se trouve que je n'ai pas encore acheté.
Il est
me prêter ton livre.
Je l'ai commencé.
La nouvelle version des nouveaux chiens de garde réactualisés. Voilà. Je pense que c'est un bouquin à recommander à tout le monde. Voilà. Alors, je vais tomber comme un cheveu sur la soupe parce que j'avais deux choses à dire en tant qu'avocate du diable. Bon, tant pis, j'y vais, ça tombe un peu comme ça, mais je voulais rendre hommage d'une part à quelqu'un qui s'appelle Ricardo Calderón. Et Ricardo Calderón, c'est un type qui a fait le site pirate de là-bas, si j'y suis, pendant de nombreuses années. Le seul site qui était en fait connu de nous tous, voilà, sur Internet, etc. Et que Daniel Mermet citait régulièrement en disant « bon, j'ai pas le droit de le dire, mais il existe ». Et puis il se trouve que Ricardo Calderón, à un moment donné, sur ce site pirate, a donné la parole à deux reporters de là-bas si j'y suis qui n'étaient pas forcément contents, je l'évoquais en intro, de leur relation avec Daniel Mermet. Bon, je rentrerai pas dans les détails d'abord parce que j'ai pas toutes les informations, mais disons que c'était pas les premiers, il y avait déjà eu aussi Joël Lever, bon, etc. Il y a eu des choses qui ont été dites sur les façons de travailler au sein de l'équipe. Bon, c'est une chose. En tout cas, sans rentrer dans la polémique, ce qui est quand même assez triste, c'est que l'année dernière, Ricardo Calderón a été obligé de fermer son site.
Et ouais, et ça a posé des problèmes.
Voilà, il a reçu une lettre particulièrement sèche et voilà, qui était pour le moins désagréable de la part de Daniel Mermet. Pour lui dire, en gros, bah maintenant t'arrêtes, sinon tu vas avoir des problèmes. Voilà. Donc Ricard, si tu nous écoutes, on pense encore à toi. Ricardo, qui est d'ailleurs prof dans une banlieue qui nous a dit qu'il voulait bien témoigner d'ailleurs un de ces jours de la réalité de ce que c'est son travail au sein de ces endroits qu'on doit carchériser voilà, selon certains. Un petit point, alors bon, c'est vrai, c'est un peu sévère, mais il fallait que je le dise. Un autre point, alors bon, c'est vrai que ça tombe, effectivement, Ludo vient de me le rappeler un petit peu à la fin comme ça. On dit qu'on n'est pas toujours d'accord avec certaines émissions. Moi, j'ai dit, je ne suis pas du tout d'accord avec l'émission qui s'appelait Le pot-au-feu et la pipe. Je ne sais pas si vous l'avez écoutée. Et que j'ai trouvé extrêmement graveleuse. Et voilà, certains auditeurs revendiquent, à juste titre, et pourquoi pas, qu'on parle plus, comme disait l'un l'autre jour, de cul dans la basse et j'y suis, de sexe, d'érotisme, de pornographie, de tout ce qu'on veut. Il se trouve que... Je vais pas vous raconter cette émission-là, je vous propose quand même de l'écouter en ligne.
C'est sur le cuistot, là.
Ouais. Je trouve que c'était une manière assez répugnante de parler des rapports humains, quoi. Bon.
J'ai pas été plus choquée que ça.
D'accord. Bah écoute, on en parlera hors micro. C'est, je sais que certains auditeurs ont appelé en disant bah, si c'est ça, de lutter contre un monde cynique, libéral et individualiste, cette émission n'en fait pas la preuve. Voilà, bon. Bah, ça casse un petit peu l'ambiance vers la fin. On ne peut pas être d'accord avec tout, mais je crois que de toute façon que les repères n'ont pas été créés non plus pour dire, pour être des bénis. Oui, hein, on est bien d'accord.
Oui, tout à fait.
Non.
Tout à fait.
Moi, on n'est pas toujours d'accord avec Mermet. Là, j'ai un papier là, donc j'ai imprimé tout à l'heure là par rapport à un site sur Internet. Ça concerne donc la vision de l'émission de Schneiderman sur Internet, donc qui va elle être aussi donc verrouillée.
Oui.
Hein. Donc Schneiderman, c'est pareil. Bon, on n'est pas toujours d'accord. Je crois qu'il s'agit pas de dire que ce sont des personnes
à sacraliser.
À sacraliser, il donne un espace de parole. Et c'est ça qu'il faut qu'on défende, parce qu'actuellement, bien, c'est grave ce qui se passe par rapport au droit de parole.
C'est important donc, ce que tu dis, voilà. François. On va juste préciser, parce que peut-être que tout le monde dans le bar ou les audinotes qui nous écoutent ne sont pas forcément au courant. Donc, Arrêt sur image.
Voilà.
Hein, qui est diffusé sur France 5 le dimanche midi aux alentours de 12h45, quelque chose comme ça. Qui est effectivement une émission qui a été plus rebelle en un temps, bon, avec des Pierre Carles, etc., qui peut-être s'est un peu assagi, mais qui, en tout cas, c'est vrai, donne un espace de parole très intéressant pour réfléchir sur ce que font les médias, notamment
L'année dernière, notamment, par rapport aux événements dont on fête l'anniversaire, là, cette année, l'émission de Schneiderman a été extrêmement importante pour relire les images telles qu'elles étaient passées aux actualités.
Ouais, absolument. Non, c'est vrai, ils font un bon travail. Et donc, pour relayer ce que tu disais, effectivement... Cette émission avait au moins un mérite, c'est que il y a un montage court sur ce qu'on voit nous téléspectateurs voilà le dimanche sur France 5, mais en revanche jusqu'à présent sur Internet on pouvait voir l'intégralité voilà sans montage, et c'est quelque chose que la chaîne vient de leur enlever.
Voilà.
Et tu as raison, qui est tout à fait dommageable. Voilà. Ouais. C'est important de le dire. Sylvie, on a fait un petit tour de table, donc pour conclure, toi aussi, si tu veux lancer un dernier appel, pousser un dernier cri.
J'avais des coups de gueule à donner, vous pouvez passer au café Mermet le mercredi à 18h au bistrot. Voilà. Non, le coup de gueule, ouais. Ça fait du bien des fois, hein. Quand tu vois que tout le monde embraye derrière, ça fait du bien.
Ouais.
Autre chose avant de passer à la chronique de Ludo?
Je veux dire, est-ce que vous avez un temps imparti ou pas le mercredi? C'est-à-dire que les gens qui peuvent passer après, comme ils bossent jusqu'à 19h, ils peuvent passer de toute façon, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas un temps imparti?
Non, non.
D'accord, merci.
Il prêche pour sa paroisse.
Non, juste avant de se quitter, est-ce que vous avez chacune et chacun, hormis Mermet et les quelques sources qui ont été citées ce soir, d'autres sources d'informations, revues, qu'elles soient papier ou électroniques, ou livres sortis récemment, que vous souhaiteriez recommander et qui vous servent d'outils de réflexion courante?
Tout à fait, tout à fait.
Comme site, je parlerai du site de Bella Ciao. Hein, qui donne énormément d'informations. Donc, allez voir, c'est vraiment un lieu où on peut réfléchir et avoir de l'information.
Bella ciao.
Alors, d'accord. Moi, je vais vous parler d'un autre site et aussi d'un journal, et j'espère qu'on le verra un peu plus aussi dans notre ville. C'est un journal marseillais qui s'appelle CQFD. C'est ce qu'il faut dire, ce qu'il faut détruire, ce qu'il faut dénoncer. C'est aussi une autre information. C'est évidemment pas l'information qu'on a dans la presse locale et qui s'emploie vraiment à dénoncer tout ce qui peut se passer dans le monde, en France. Donc on a aussi bien des paroles de prisonniers, des paroles de chômeurs, des paroles de travailleurs, des paroles d'immigrés. C'est vraiment la parole qui est donnée à tout le monde. Et on peut écrire aussi, et je pense que c'est aussi un moyen d'avoir une autre information qui est là beaucoup plus réelle, beaucoup plus réaliste et aussi
alternative.
Voilà, alternative. Et j'espère qu'on aura un jour l'occasion de les inviter.
Ouais, ça fait longtemps qu'on en parle, on va le faire.
Bah
à
oui.
Jean-André, t'aurais un média.
Moi, j'aurais voulu parler de Politis, qui est en danger en ce moment. Et pourtant, c'est un canard qui se porte très bien, qui se vend, mais qui a suite une mauvaise gestion, des erreurs de gestion, bon, on se retrouve en grosse difficulté. Alors que c'est un très bon canard. Et donc, l'aider, parce qu'il y a une pétition de soutien et tout ça. Et
puis. Il manque plus que 400 000 euros. Voilà. Une paille.
Et voilà. Et puis aussi, moi, j'épluche aussi la presse nationale. Hein. Malgré ses défauts, j'arrive quand même à.
Ouais, bon, même si on ne raffole pas, on peut dire que si Libération ne coule pas, c'est quand même mieux.
Ouais. Voilà, faut
la presse nationale. Politis, c'est vrai que c'est important.
France
parce
Culture
que,
aussi, que,
franchement,
qui est pas mal. Certaines émissions de France Culture politique sont pas mal.
Sûr. Non, mais Politis, c'est vrai que c'est quand même un des seuls canards hebdomadaires qui quasiment pas de publicité, qui fait énormément de choses sur l'écologie et vraiment beaucoup de sujets sur un thème qui me tient et qui nous tient ici à cœur à Radio Apple Pie sur la Palestine, où ils font vraiment quand même un gros boulot d'enquête, de reportage.
Ça serait dommage qu'un canard comme ça disparaisse pour des raisons.
Donc il faut envoyer de l'argent à Politis. C'est les amis de Politis, vous allez sur internet, vous allez trouver ça, c'est sans problème. Sylvie, t'as un média spécial à nous conseiller? À part Radio Apple Pie, bien sûr. Ludo, Pascal, pas plus.
Non, je savais pas que la chasse au canard était ouverte, mais.
Très bien. L'autre jour, j'ai entendu une phrase très jolie, mais bien qu'involontaire, sur France Inter, justement. C'est quelqu'un qui disait que ça commençait à manquer de plumes dans les canards. Chronique de Ludo.
Whenever I'm
Martha Les Vandellas, Love Is Like a Heatwave, ça fait du bien quand même.
C'est excellent.
Oui, bah oui. Pourquoi donc ? Eh bien parce que Étrange Festival, édition 2006. Alors, l'Étrange Festival, donc, nous y étions, très brièvement, donc ça va faire un compte-rendu bref, modérément. Alors, l'Étrange Festival, c'était cette année du 30 août au 12 septembre. Comme chaque année, la sélection est absolument gargantuesque.
Ça a l'air.
Donc, on va essayer de faire le tri au milieu de tout ça. Juste préciser une chose, c'est que depuis un ou deux ans environ, il y a une espèce, pour ma part, ressenti, mais je crois que les organisateurs aussi, un sentiment diffus d'extrême exigence du public vis-à-vis de la programmation. C'est-à-dire que avec l'essor du DVD, le téléchargement, les multiples moyens de se procurer les joyaux obscurs, et également tout le travail fait par un certain nombre de personnes, Dionné, Gans, Tarantino, à travers ses films, pour la première fois, entre guillemets, les fans hardcore de cinéma de genre, même s'ils habitent en province, ont parfois de l'avance, si l'on peut dire, sur certaines découvertes de l'Étrange Festival.
Je veux dire, même toi au Havre ?
Oui, même moi au Havre. Donc, alors... Oui, non, mais ça va... Letty est stupéfaite devant une photo de Salo ou les 120 journées de Sodome. Non, dont on va très très peu parler. Hein. C'est justement à propos de ça, en fait. Hein. C'est justement très visiblement les organisateurs, donc en l'occurrence Gilles Boulanger, Frédéric Tan et Marc Bruckert, ont eu des reproches sur certains blogs comme quoi la sélection ne dévoilait pas suffisamment d'inédits, que les films étaient déjà connus. Oui, certes, ceci dit, un film, ça se voit en salle. Ça se voit en salle, ça se voit en public. Quand même, ça se consulte chez soi. Voilà. Ça s'observe du coin de l'œil si on le télécharge avec une compression énorme sur son ordinateur. Ça peut se voir dans des conditions parfois très très correctes sur son lecteur DVD. Mais un film se voit quand même en salle, de préférence sur support pellicule, si on peut. Voilà.
Sauf si on est adepte de Head and Shoulders.
Oh là 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 là.
Devant ce coup bas, je vais surenchérir dans le scabreux. Alors, cette année,
cherché, hein.
Au programme de l'Étrange Festival, donc des cartes blanches, justement, ça fait partie des choses qui peuvent être sujettes à certaines attaques. Donc, carte blanche cette année, Diamanda Galas. Alors, diva lyrique, d'accord, qui suscite visiblement la stupéfaction totale autour de...
L'ignorance crasse, désolé.
L'ignorance crasse, voilà. Donc, Diamanda Galas, qui est-elle ?
Oh, je fais des conneries, moi.
Juste pour,
pour
information, donc voilà, donc texte du catalogue de cette année. Explosant les frontières du chant classique à l'aide de sa voix sophistiquée et d'une émotion à fleur de peau, Diamanda Galas interprète Guilty, 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 un programme composé de chansons d'amour tragiques et meurtrières, qui s'étend de Eight Men and Four Women de O.V. Wright à Time Interlude de Timmy Euro, de Lac Blanc Veil de Johnny Cash à Heaven Have Mercy d'Edith Piaf.
En effet.
Et oui, donc Diamanda Galas donc faisait un concert dans le cadre de l'Étrange Festival, en l'occurrence soirée rebaptisée l'Étrange Musique, et proposait également une sélection de films qu'elle désirait revoir. Donc c'est vrai, ce sont quand même des classiques. Persona d'Ingmar Bergman, Salo ou les 120 journées de Sodome, Sort de sang de Brian De Palma, Les yeux sans visage, La reine des bandits de Shekhar Kapoor. Autant de films que tout le monde n'a pas vu, effectivement, mais
non, mais
on avait
dit,
la possibilité de
pour
voir.
Pour ceux qu'on a vus et pour ceux qui sont allés revoir, qui s'en plaindraient, non ?
Non, mais exactement. Non, mais surtout que c'est la possibilité de les revoir en salle. Voilà. Donc, sinon, autre carte blanche, Paul Schrader. Alors là, quand même... avec des films beaucoup plus difficilement accessibles à tous les sens du terme. Alors Paul Schrader, c'est le scénariste d'un certain nombre de Scorsese, et pas des moindres, en l'occurrence Taxi Driver, Raging Bull, La dernière tentation du Christ et À tombeau ouvert, donc Raising Out the Dead. Paul Schrader est également cinéaste. Il est le réalisateur de Yakuza, avec Robert Mitchum, 74, qui était présenté dans le cadre de sa carte blanche. Il est réalisateur également de The Comfort of Stranger, alias Étrange Séduction, excellentissime film méconnu avec Christopher Walken. Il est également réalisateur d'une biographie de l'écrivain Yuko Mishima, hein, Mishima Life in Four Chapters. Et Paul Schrader, c'est quelqu'un qui a quand même qui a été élevé dans une famille calviniste. Né en 46, et la rigueur morale de sa famille a fait qu'il n'a pas pu voir de film durant toute son enfance ni son adolescence. Alors évidemment, quand il a débarqué pour faire ses études de cinéma en Californie, pleines années 60, c'est quand même... Ah oui, non, mais la révélation, le choc, etc. Et de fait, Paul Schrader était venu avec un certain nombre de films expérimentaux qui l'avaient beaucoup marqué à l'époque. Alors, pour le plus accessible quand même, et de très très loin, il y avait Scorpio Rising de Kenneth Anger. Alors, Scorpio Rising, c'est absolument magnifique. Donc, 1964, c'est présenté par Paul Schrader, et on ne saurait lui donner tort, comme le grand-père du cinéma fétichiste. Et c'est tout à fait ça. En fait, c'est donc, ça, donc,
le père.
Donc, une durée... Bon. Non mais
tu sais
alors, la mère parce que
tu vois ouais. Si tu veux qu'on fasse de la généalogie, il y a pas de problème, mais on finit à 2h.
Attends, t'as vu à combien ils sont sur leur toile cirée, hein? Comment veux-tu savoir qui est le père?
Je m'en fous, c'est pas moi qui fais le ménage. Bon.
Alors regarde, je préfère faire le ménage qu'être sur la
fétichiste
toile.
Parce que Anger filme un groupe de motards, donc en 64.
En hommage à Dom, déjà.
Ah oui, et en fétichisant à mort. C'est-à-dire que les chromes sont éclatants, les couleurs sont ultra vives.
On croirait une pub pour Homo.
Eh bien, tu ne me crois pas si bien dire. Parce que le métrage est homo-érotique à mort. Yeah. Et à n'en plus pouvoir. C'est-à-dire que les blousons de cuir sont mis en valeur comme pas possible. Eh oui. Et les ceintures... Et les ceintures, tout ça pour...
tout est dans la suggestion. Et les ceintures, et les ceintures.
Et on fait quoi avec les ceintures?
Alors,
il évoque, il ne balance pas.
Non, alors ceci dit, au-delà effectivement de son aspect très gay, si l'on peut dire, avant l'heure, qui est très réussi, le véritable sujet du film, c'est la culture pop en 64. D'où Martha and the Vandellas tout à l'heure, puisque la bande-son est entièrement constituée de standards de l'époque. Donc c'est un enchaînement de Presley, par exemple, You Walk Like an Angel, Talk an Angel, etc. Martha et les Vandellas, Bobby Vinton, évidemment, avec le très suave Blue Velvet... Voilà, qui servira à illustrer un plan absolument splendide de motards entièrement cuir, jambes écartées dans un couloir, avec une borne de signalisation comme ça.
C'est absolument
splendide.
Ça fait rêver.
D'autant qu'évidemment, pris dans cette frénésie emphatique et fétichiste, Anger évidemment fait les parallèles les plus déconcertant, dirons-nous, entre les motards à la fois tiraillés entre des images de Jésus et des images d'Hitler.
Oula !
Ah oui.
Bon.
Donc, alors sinon, autre film expérimental, je vais aller très rapidement, je le sens, parce que le programme était tellement dense.
Non, je t'en prie.
Donc, il y a eu Sirene Velocity de Ernie Gare, 1970, alors qui est... comment dire ? 23 minutes, je crois que je vais lire tout simplement la présentation, la citation qui est reprise dans le catalogue, parce que là, à cette heure-ci, je ne peux plus l'expliquer.
D'accord.
Un exemple de cinéma hypnotique. Ernie Gare, texto, la caméra ne bouge pas, le zoom ne bouge pas non plus, chaque image est prise individuellement, 4 images pour chaque position. Pour donner un exemple, j'ai filmé les 4 premières images, photogrammes au 50 mm. Les 4 images suivantes sont filmées au 55 mm. Ensuite, pour une certaine durée, sur environ 50 pieds, j'ai avancé et reculé. 4 images au 50 mm, 4 images au 55 mm, etc. Puis je suis passé au 45-60 mm et j'ai procédé de même. Vous n'avez rien compris, c'est tout à fait normal.
Absolument.
Voilà. C'est un.
C'était de la nouvelle vague avant l'heure, peut-être.
Voilà, en fait, c'est un couloir vide d'université qui est filmé toujours sous le même angle, mais avec des focales différentes. Ce qui crée des rapprochements, des rétrécissements pour un effet qui est particulièrement perturbant.
Hypnotique.
Ouais, hypnotique. Alors, il faut quand même préciser que Wavelength était proposé juste après. Serene Velocity, était proposé juste après Wavelength de Michael Snow, 1967, 45 minutes, qui est un faux zoom plan séquence sur un mur, quand même.
Waouh. Ouais, après, on nous dit que Chantal Akerman a inventé des choses. D'accord.
Mais un mur n'est-ce pas une porte, quoi.
Bravo, bravissimo.
Qui commence en plan large pour s'achever en zoom ou en gros plan dans le tableau qui est accroché au mur. Les deux
qui représente quoi?
La mer. Tu te perds dans les vagues en plan macro. Je peux te dire que les deux enchaînés. Les spectateurs faisaient des commentaires pour la séance suivante quand ils voyaient sortir. Ah oui,
c'est
là, ils ont l'air bizarres, ils sont
à guerre. C'est moins embêtant que le film qu'on avait vu à Cinéma et Enfance sur une.
Non, j'y ai beaucoup pensé. Ah, voilà. D'accord. On va pas épiloguer. On va dire que c'est une expérience personnelle à vivre. Bon, voilà. Alors, sinon, dans le registre expérimental, je vais passer très très vite dessus. Il y avait Lonesome Cowboys d'Andy Warhol et Paul Morrissey, 1968, 2 heures, qui se voulait la fin du cinéma narratif. Pour moi, ça a été quasiment la fin de ma vie de spectateur. Bon.
Gloop.
Voilà. Et alors, en revanche, voilà déjà quelque chose qui me touche beaucoup plus, Yukoku, Rite d'amour et de mort de Yuko Mishima, justement, dont nous parlions tout à l'heure, et Paul Schrader. Voilà.
J'en étais sûr. Un film mexicain. Non, eh bien non.
Voilà, de Yuko Mishima et Masaki Domoto.
Non, on va pas ah, donc on retombe 1960, dans l'esprit
1965. Donc en fait, qui sont les qui durent une petite demi-heure également, qui sont les derniers instants d'un lieutenant après que le coup d'état de février 1936 ait échoué au Japon, un lieutenant tiraillé à la fois entre sa sympathie pour les rebelles, les putschistes, mais qui ont échoué, et en même temps ses obligations. Évidemment, vis-à-vis de la hiérarchie. Voilà. Tiraillé entre les deux, il se suicidera en se faisant seppuku, un accident dit harakiri. C'est très très beau. Alors, c'est quand même illustré par des vagues entières de musique de Wagner.
Un peu curieusement.
Ce qui n'est pas sans alourdir, mais voilà. Oui, bon. Non, ceci dit, c'est très beau. Deux acteurs, Mishima lui-même qui joue donc le suicidé. Une actrice qui joue son épouse, qui bien entendu le suivra dans la mort.
Comment on joue le suicide.
Et il va de soi que ce court-métrage est totalement prophétique, puisque Mishima lui-même en 70 tentera un coup d'état, voilà, et se
suicidera.
Voilà, se fera également. C'est beaucoup. Devant son échec.
C'est beaucoup dire.
Voilà.
Ah, je ne m'attendais pas moi.
Voilà. Bon. Donc sinon, l'Étrange Festival, c'était aussi au grand galop des avant-premières de films qu'on devrait voir normalement prochainement en France. Donc, comme chaque année, ouais. Alors lui, c'est un abonné total, puisque c'est une des grandes découvertes de l'Étrange Festival, Takashi Miike, dont on parle souvent. Voilà. Deux films de lui, The Great Yokai War. Ouais.
Le mec est Takashi Miike. Bon.
C'est le mec qui a caché Miike, c'est ça?
Takashi Miike. Bon, bah,
voilà. Alors, The Great Yokai War, donc on n'a pas pu voir, qui est le remake de Démon contre Fantôme, passé l'an dernier à l'Étrange Festival, qui est un film pour enfants absolument exquis, sanglant et nationaliste.
De la propagande, quoi.
Et un deuxième film de Miike, enfin, cette fois-ci un téléfilm, qui s'appelle Imprint, qui a déjà sa petite réputation, mais on en reparlera en décembre quand il sortira en DVD en France, puisque c'est un film de commande pour la télé américaine dans le cadre d'une collection, les Masters of Horror. Oh. Et devant le résultat, même en coupant les scènes les plus hardes, les producteurs et les diffuseurs ont jugé que c'était impossible de le passer. Donc, on jugera sur pièce quand il sortira en décembre.
En effet.
Sinon, il y avait également donc Avida de Gustave Kervern et Benoît Delépine, hein, de Groland. La reprise de La Montagne Sacrée d'Alejandro Jodorowsky. Alors là, le film halluciné par excellence. Sinon, hormis ça, donc. des thémas. Alors, très rapidement, il y avait un thème autour de Dali, avec tout ce que Salvador Dali a pu apporter comme contribution au cinéma. Donc, évidemment, les deux Buñuel, un chien andalou et l'âge d'or.
Ouais.
Ouais, je te sens particulièrement circonspecte, pour ne pas dire dubitative.
Tout à fait.
Voilà. Ouais, l'âge d'or est un film magnifique, ne serait-ce au moins que pour cette réplique, enfin, ce dialogue splendide. Mais vous êtes un salaud, des femmes, enfin des vieillards et des enfants vont mourir à cause de vous. Mais les vieillards et les enfants, je m'en fous, qu'ils crèvent. Et ça, c'est un grand moment de jouissance surréaliste, je t'assure.
Bon. Ce qui nous rapproche de... Ah bon, je vous le dirai après.
Bon, alors sinon, évidemment, il y avait aussi la maison du docteur Edwards, d'Hitchcock, hein, pour lequel il avait participé aux séquences.
Particulièrement soft quand même, voilà. Dans cette histoire-là. Qu'est-ce que...
il a... C'est lui qui a réalisé les décors, toute la direction artistique de la séquence de rêve.
Oui, non, mais c'est beau, mais
Ah oui, oui, non.
Ça reste, enfin bon, bref.
Voilà, il y avait aussi Destino de 46, qui était un projet qui avait été monté avec Disney, bon, qui évidemment n'a pas abouti. Dans le cadre des thémas, il y avait aussi la théma Rednecks.
Alors, waouh,
c'est une marque de préservatif, non?
Alors, le Redneck. Vous n'êtes pas sans connaître le Redneck.
Bah bien sûr, le Redneck. Surtout Sylvie qui a passé du temps aux États-Unis.
Est-ce que tu peux nous donner une définition du Redneck?
J'en suis pas trop sûre, mais c'est l'américain moyen, quoi, campagnard, ouais, qui prend des coups de soleil dans le cou. Gros
beauf texan, enfin, je sais pas. Calvin Russell disait que quand il faisait du stop dans les années 60 pour aller voir des concerts de rock, bah, c'était les gros en camion qui voulaient l'écraser, quoi.
Voilà, c'est lourdeau américain moyen.
Voilà, c'est une très bonne définition. Donc,
c'est ce que je dis, c'est un tue l'amour.
L'étrange festival programmait pas moins de 5 films autour des Rednecks. Il y en a d'autres, hein, je peux te le dire. Alors, on peut les séparer en deux catégories. Alors,
le film pro Redneck et le film anti Redneck.
Non, alors première catégorie donc dans cette programmation, le gars qui va débarquer dans la communauté Redneck et ça va très très mal se passer.
Ah oui, forcément, là c'est alors, un film d'horreur déjà.
Dans ce cadre, il y avait Bayou de Harold Daniels, 1957, film qui serait resté très probablement totalement obscur si quelques années plus tard des distributeurs très malins n'avaient pas eu l'idée de réinclure dedans certaines scènes tournées aux alentours de 60-61, mais évidemment un peu plus hard, un peu plus glauque et un peu plus scabreuse que ce qui ne figurait dans le métrage d'origine, notamment une poursuite dans la boue qui est tout à fait cauchemardesque.
Avec des filles.
Ouais. Une.
Une suffira.
Voilà. Alors, à noter quand même que le suspense a été entretenu jusqu'au dernier moment, parce que Gilles Boulanger, l'un des organisateurs, avant de projeter le film, disait qu'il avait vu que le film seulement en vidéo jusqu'à présent, et qu'il ne savait pas si la copie qu'il allait projeter allait contenir ces fameuses scènes ajoutées pour une exploitation. Voilà. Alors, Bayou, c'est quand même un film donc, qui, hormis ses ajouts d'origine, a quand même une morale relativement douteuse, puisque le héros, c'est Peter Graves. Oui, Peter Graves, oui, le Jim Phelps de Mission Impossible.
Parce qu'elle est d'accord.
Le Jim Phelps de Mission Impossible, quelques années avant, qui est tout à fait au début du film non violent, pacifiste, qui débarque dans la communauté, évidemment confronté face à un rival, le scénar vont finir par lâcher, et le rival finit à terre avec une belle hache plantée dans le dos. Et Peter Graves, de tirer la leçon de tout ça à la fin, toute ma vie je suis resté à l'écart, mais de temps à autre il faut bien réagir, voilà, etc. Mentalité.
Et en même temps, excuse-moi, sur la sémantique, sans être à l'arrêt, n'est-ce pas un peu abusif? Oui, c'est une communauté, certes, mais c'est tellement employé. Dans les années de l'époque, la communauté était hippie. Désormais, elle est ethnique. La communauté des Rednecks.
Oui, non, effectivement, c'est un raccourci.
Je me permets.
Non, c'est un raccourci.
Est-ce qu'il y a des coon-ass aussi dans le bayou, là?
Des
coon-ass.
Des coon-ass, c'est-à-dire?
C'est les cajuns, c'est les raccoon-ass.
Alors, justement, c'est pour ça que je
c'est comme ça, c'était l'opposition entre les Rednecks et les coon-ass.
Voilà, non, effectivement. En l'occurrence, la communauté qui est présentée dans Bayou, hormis son élément évidemment super macho, super viril, qui va chercher les ennuis et qui va tomber sur sa hache, cette communauté est tout à fait sympathique.
Ah, d'accord.
Par contre, dans Mudhoney, le désir dans les tripes, qui fait partie de la première époque de Russ Meyer, le mythique Russ Meyer, donc qui date de 65, c'est beaucoup moins expansif si vous avez vu les Vixen, Mega Vixen, Ultra Vixen, voilà, etc. On est vraiment dans le drame rural, dans le drame rural, avec ce que ça comporte de puritanisme, de propension au lynchage, et d'ailleurs le film se termine ainsi.
Ah ouais.
Et c'est tout à fait passionnant, parce que sans dévaloriser la deuxième partie de la carrière de Bruce Meyer, où là effectivement c'est beaucoup plus cartoonesque, excessif, ses premiers films sont déjà très très bons. D'accord. En termes de montage, en termes de structure dramatique, c'est déjà très bon.
Yeah.
N'est-ce pas, on y arrive. Bon, très rapidement, il y avait aussi Carnage de Michael Ritchie. Alors, et là,
parce... Oula, ça s'affole autour du micro là. Oula.
Ah, tu l'as vu ?
Il y a du fan.
Ah !
Letty et Pascal sont tout foufou. Alors, Carnage,
qui est un excellent thriller méconnu avec Lee Marvin. Donc. Ah ouais, ben on y
c'est pour ça que j'étais étonné, tu vois, de connaître un film dans l'étrange festival. Je me suis dit, putain, c'est bizarre ça quand même.
Ah, mais attends, ils doivent devenir grand public, parce que moi là j'en connais 5. Tu vois, le truc.
C'est ce que d'aucuns leur reprochent, mais ils ont
pas. Oui, je sens bien.
Voilà. Donc, Carnage, c'est Lee Marvin qui joue un encaisseur de la mafia qui va débarquer au Texas pour aller réclamer des comptes à Gene Hackman, justement. Alors, qui est vraiment. Qui est exploitant et exploiteur. Exploitant parce qu'il dirige une usine qui, accessoirement, lui sert à faire disparaître les récalcitrants, comme dans le générique, très drôle et plein d'humour noir.
C'est du recyclage.
Et également exploiteur dans la mesure où c'est carrément du trafic d'humains, du trafic de femmes, dirons-le carrément, qu'il présente lors de ses expositions agraires, dirons-nous. Mmh. Lee Marvin débarque là-dedans. Il est évidemment parfait. Gene Hackman joue le beauf redneck absolu, ce qui vaut une scène d'empoignade fraternelle, bourrue et virile avec son frangin qui fait bien 5 minutes à se taper sur la gueule dans un bureau qui est absolument hilarante. Le film est. Le montage est très bien, la musique est d'Alo Schifrin. Il y a dedans Sissi Spacek qui joue évidemment la fille qu'il faudra sortir de ce trafic absolument inhumain. Le plan final sur la musique de Alo Schifrin, je ne sais pas si Letty s'en rappelle, est un monument naïf années 70.
Pas de blanc à l'antenne.
Voilà. Je laisse les audinotes le découvrir. Voilà. Alors sinon, autre tendance de ces films rednecks, le crocodile de la mort et Nuit de cauchemar. Là, c'est la personne qui débarque dans l'hôtel, le motel, la résidence, enfin l'exploitation tenue par des fous furieux. Le crocodile de la mort, c'est un film de Tobe Hooper, c'est le film qu'il a réalisé après Massacre à la tronçonneuse, dans lequel un fou furieux nourrit son crocodile, à savoir un Crocodilus porosus géant. Enfin,
non.
Le crocodile est pourri, hein, effectivement. L'intérêt, c'est surtout porosus, le gérant de l'hôtel qui est d'une hystérie absolument totale. On pense beaucoup à Psychose, on pense beaucoup au cinéma studio des années 50. Nuit de cauchemar de Kevin Connor, qui est probablement son meilleur film. Nuit de cauchemar, alors là, l'agriculture bio est enfoncée de très très loin.
L'agriculture bio est en double film.
Puisque il s'agit carrément de capturer des touristes, de les planter en terre, avec uniquement la tête qui dépasse, de les gaver tels des oies. Et une fois que le touriste légume est bien rassasié, de le tirer par le cou à l'aide d'une corde reliée à un tracteur.
Mais pour en faire quoi, du coup ?
Pour en faire quoi ? Du jambon, diverses viandes fumées qui font les délices de la région.
Non, je croyais que c'était pour enrichir la terre.
Et de l'engrais.
Bien, mais...
Non,
c'est l'inverse. D'accord, c'est pas l'agriculture, voilà. C'est plutôt l'élevage, du coup.
C'est l'élevage, voilà. Mais c'est un élevage, mais...
Il faut se comprendre, parce que dans le bio, il y a deux choses.
Oui, un élevage en terre.
Bien sûr, mais c'est bien.
Ce qui s'appelle en
terre. Et non pas sous la mer.
C'est voilà, bien, Gadi.
Moi, je m'en fous, je suis végétarienne, hein, je défends les animaux. Non, après qu'on enterre des gens vivants...
C'est un excellent film, avec énormément d'humour noir, un aspect conte de fées aussi, et un côté grotesque qui est totalement assumé, notamment lors d'un duel final à la tronçonneuse, avec notamment le fermier coiffé d'une tête de cochon.
Oh, comme ça doit être sympathique. Sauf pour le cochon.
Sauf pour le cochon. Voilà, alors enfin, et sinon, pour finir, les hommages cette année à deux réalisateurs japonais, dont Sono Sayon, dont, et là j'ai pu voir aucun film, y passait le fameux Suicide Club, qui est sorti en manga en France, c'est le traduit en tant que Cercle du Suicide, c'est ça ? Aux éditions.
Pascal dit oui. Kana.
C'est Casterman Saka.
aux éditions Casterman Saka. Comme le film n'est pas prêt de sortir en France, peut-être un jour en DVD, vous pouvez vous ruer sur le manga. Et présenter également un certain nombre d'œuvres très méconnues de lui, dont son dernier, à savoir Strange Circus, dont je vais vous lire le résumé. Parce qu'il a l'air.
Donc le résumé de Strange Circus, parce que.
Particulièrement déviant. Et je vais le trouver.
Bien sûr.
Et je vais le trouver.
Dis donc, c'est un.
Voilà.
Ah. Épidémie.
Donc 2005, c'est son dernier film en date. Mitsuko est contrainte par ses parents pervers de les observer lorsqu'ils copulent. Elle est régulièrement emprisonnée dans un étui de violoncelle. Lorsque la mère de Mitsuko se suicide, son père la viole. Mitsuko se défenestre. Tout semble dit, à moins qu'il ne s'agisse d'un nouveau roman de Taeko, écrivaine handicapée, célèbre et adulée. L'arrivée de son nouvel assistant et admirateur Yuji remet en question cette hypothèse de la plus surprenante manière.
Ah, ça va pas mieux. D'accord.
Voilà. La rédaction du catalogue est faite par l'excellent Francis Moury.
Voilà. J'ai trouvé que c'était relativement consensuel et grand public. Là, je crois qu'on commence à,
voilà,
à être alors, dans ta chronique de cinéma.
Alors, pour être pas du tout consensuel, on va terminer par le deuxième hommage à Norifumi Suzuki, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Qui est un cinéaste qui me tient énormément à cœur, qui hélas n'avait pas pu faire le déplacement cette année pour la rétrospective qui lui était dédiée. 5 films de Norifumi Suzuki. Alors, c'était une des critiques. Les 5, pour vraiment les gens qui suivent la carrière de Suzuki en vidéo, étaient connus. N'empêche que c'était la possibilité de les revoir en salle. Alors, il y avait Le couvent de la bête sacrée, qui est très probablement son chef-d'œuvre dont j'avais déjà parlé.
Absolument.
Il y avait.
Il nous a traumatisés pour longtemps, crois-moi. Même sans l'avoir vu. Bon.
Il y avait Sex et Fury, 1973, que j'avais brièvement évoqué.
On connaît bien.
Bon. Voilà. Hein,
On est blindés, nous. Vous savez ce qu'on vit.
Il n'y a pas un petit truc avec des vis aussi.
Ouais, attends, on y arrive. Ouais. Non, mais je te sens trépigner.
Oh, elle n'est pas si pignée que ça. Bon.
Oh, mais je t'en prie.
Bon, Sex. Donc. Sex
and... quoi non. Oui, bon, Sex.
Sex and Fury, ouais. Donc avec Riko Ike, dont j'avais déjà parlé. Bon, pour resituer, Suzuki, comme Teru Ishii, comme Yuko Noda, c'est des gens qui sont des artisans, qui ont parfois des coups d'éclat absolument stupéfiants, et à chaque fois qu'on découvre un de leurs films, parce que quand même c'est très dur de voir leur filmographie entière, on se demande, alors cette fois-ci, est-ce que je vais le prendre pour un tâcheron, ou est-ce que je vais le prendre pour un génie? Parce que c'est des gens qui ont des fulgurances totales et qui par ailleurs peuvent tourner des trucs tout à fait médiocres.
Vous les cinéphiles, vous vivez une vie quand même vachement
haletante. Ah non, mais c'est des questions existentielles en permanence.
Absolument.
Alors Sex and Fury, c'est un grand mélange en fait. Alors c'est un film de revanche féminine, hein, évidemment.
Ah
le père de l'héroïne se fait
c'est toujours du proto-féminisme.
Se fait dessouder au début. Donc sa fille Inoshka Ocho, évidemment, va redresser les torts. C'est un film qui est à mi-chemin entre le film de jeu et de Yakuza, tel qu'illustré dans la saga de la Pivoine Rouge, dont l'héroïne Junko Fuji était la nièce de Norifumi Suzuki, et le mythique Lady Snowblonde de Meiko Kaji, etc.
Bien sûr.
C'est ce qu'on appelle un film pop japonais de l'époque, à savoir qu'il y a du sang, énormément, il y a de la nudité,
peu,
et il y a du cliché. Dans celui-là, il y a du cliché sentimentaliste à en mourir.
Oh, ah ouais. Ça te plaît, ça?
J'aime beaucoup.
Du cliché sentimentaliste.
Surtout qu'il pousse le vice à utiliser une musique sucrée, à te carier les tympans.
Non, mais
c'est excellent, ça. Sucrée à te carrier les oreilles.
C'est pas comme on dit bravo en japonais, voilà. Mais sinon, je te l'aurais dit.
Donne-moi les gâteaux.
Bien. Voilà.
Et quand une héroïne est touchée par une balle, elle s'effondre au ralenti pendant une bonne minute.
C'est
absolument splendide. Alors, sinon, était projeté également un film dont j'avais déjà parlé, donc on va pas s'attarder. J'en avais parlé sous le titre Terrifying Girls High School, Lynch Lao Classroom. Ce qui se traduirait littéralement par le terrifiant lycée de filles, la classe du lynchage.
Oui.
Eh bien, figurez-vous que ces petits coquins de l'étrange festival n'ont rien trouvé de mieux que de le rebaptiser le pensionnat des jeunes filles perverses.
Oh, non, ça existe déjà, ça.
Il y a un film comme ça mais avec. Oui, enfin, pas. Bon, il y a un film français avec Géant Vert.
On est en désaccord sur quelques adjectifs éventuellement. Bon,
non, je retire l'article. Bon,
voilà.
Passionnant, ça alors, celui-là que tu connais.
Et c'est là aussi que c'est important. Bon, j'ai déjà parlé du film, j'en reparle pas, mais c'est là aussi que c'est important de les revoir en salle parce que les copies ont été. Ils ont retiré de nouvelles copies.
Ah bah c'était rapide. Non, remarque, non, depuis tout le début de la chronique, en fait, il s'est retenu.
Alors, tu sais que l'éjaculation nasale est quelque chose qui revient très souvent dans la culture populaire.
Je pense qu'il ne le fait pas au hasard, parce que lui, contrairement à nous, il sait de quoi tu parles.
Voilà.
Bon, enfin en tout bien tout honneur. Bon, donc.
Ouais, voilà, donc. J'allais dire, c'est très important de revoir le film, parce que comme les copies sont neuves,
certes.
En l'occurrence, on s'aperçoit que l'image n'est pas tout à fait la même que celle qu'on peut découvrir sur les éditions DVD. En l'occurrence, le pensionnat des jeunes filles perverses révèle une dominante bleutée assez surprenante. Ouais, ça n'a l'air de rien, mais ça change un film. Je ne m'attarde pas.
Non.
Non,
voilà, puis on sent les deux derniers films projetés de Suzuki. C'est des films qui datent de 75 et 79. Et là, effectivement, le vent de la rébellion féminine a tourné. Suzuki passe au film d'arts martiaux avec Shaolin Karaté.
Ah oui.
Qui sort dans quelques jours chez HK Vidéo en DVD en France. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'en parler.
T'auras dû nous dire qui sort bientôt sur. Et on t'aura dit tout en cas HK Vidéo.
Voilà.
Je vais dresser maintenant.
Voilà, quelle histoire très, mais alors très romancée d'un authentique maître d'arts martiaux au Japon à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Sauf que le maître en question est, selon la légende, selon la statue qui lui a été dédiée, pacifiste, dirons-nous, et que le héros de Shaolin Karaté se livre quand même à quelques castrations, au moins une castration assez rude, dirons-nous. C'est une version du pacifisme qui laisse relativement dubitatif.
Disons qu'effectivement, quand Éric Zemmour, l'infâme, dit que son idole est Napoléon et que Michel Blanc lui répond « Ah bah tiens, c'est curieux, moi c'est plutôt Gandhi », bon, effectivement, Gandhi casse très peu, enfin je crois.
Il caste.
Ah oh oui, non, je crois qu'il ne castait pas non plus, enfin bon, bref, l'idée était intéressante.
Il était castré, que ça laissait un peu dubitatif.
Ah oui. Ça laisse plutôt du bit pas du tout, mais bon, d'accord. C'est ça que tu voulais dire, Pascal.
Enfin, j'entends bien. Alors effectivement.
Non, mais c'est ça. On teste notre Ludo parce que en fait, voyez bien cette ardeur, cette pugnacité. Hein. On a beau le couper, le...
Ouais.
Il continue.
Non, mais perd pas le fil. Hein. Tu dis et donc et pire pas.
Ni l'est ni l'ouest ni le. Bon, donc.
Donc. Voilà, ultime film de Suzuki.
C'est dur à dire, ultime film.
Ouais, non, terriblement. De Suzuki présenté dans cette sélection, et ça va faire plaisir à Letty, mais en fait, pas du tout, parce que je peux te dire que tu verras jamais le film. Je l'ai en vidéo, si tu veux, mais je peux te dire que tu le verras jamais.
La mère.
Voilà, c'est Vice et Sévice, enfin, en version française.
C'est bien ce qui me semblait.
En version japonaise, c'est Dabide no Oshi, Bishujo Girlie. En version anglaise, c'est Star of David, Beautiful Girl Hunter.
Ah ouais, c'est bien.
Et là, on est en 79.
L'étoile de David.
Ah ouais.
Ça vient foutre là-dedans.
Et là, effectivement, le vent de rébellion féminine, la femme scorpion, le couvent de la bête sacrée, etc., est définitivement passé. Oui, les menottes rouges également. C'est, je veux dire, au niveau du cinéma érotique, c'est définitivement les romans porno de la Nikatsu. Et là, Suzuki livre son film de très loin le plus sadique et le plus sadien, étant donné... Eh oui.
Ça finit mal, cette chronique. Hein.
Non, non, mais attends, c'est pas la fin.
Ah bon. Non, non, pardon. Bon,
non, tu veux...
son livre le plus sadique et sadien...
Non, tu veux pas le détail.
Je me oui, vas-y.
Non, alors...
tu me fais combien hein, au détail, parce que au pré-gros, moi, j'ai une idée, mais...
Non. Alors disons que c'est un enfer absolu. Mais alors très très honnêtement, c'est un film très très très.
Les yeux dans les yeux. Déjà que moi, les trois quarts des films que chronique Ludo, je m'évanouis. Donc c'est insoutenable.
C'est moralement insoutenable.
Ah.
Effectivement, dans la mesure où il s'agit d'un.
Bah ouais, mais...
Dans la mesure où il s'agit d'un jeune homme qui est né d'un viol, que évidemment. Son père civil a fort mal digéré, avec ce qu'on peut, avec on peut imaginer ce que ça peut impliquer de complications vis-à-vis du couple. voilà, je ne te fais pas de schéma, hein, non. Et qui en garde une...
Ce ne serait pas radiophonique de toute façon.
Voilà, et qui en garde un nihilisme particulièrement profond qui va entreprendre de dispenser à des jeunes filles de préférence, voilà, qu'il va éduquer dans son donjon, sachant qu'il a par ailleurs des passions très très troubles, comme la masturbation sur des images du Troisième Reich.
Oh là 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 là. Nos invités sont effondrés, nous-mêmes nous sombrons dans la dépression la plus totale, Ludo. Où veux-tu nous emmener avec ça?
Alors, jusque-là, ça allait. Mais alors, sur des photos du Troisième Reich,
alors,
ça me plombe.
Alors,
ça
me plombe. Si je te dis qui plus est que le film, dans ses parties sociales, enfin, ce que j'appelle sociale, c'est vie sociale du personnage principal.
Ouais, c'est quand il baisse pas, quoi.
Voilà, c'est ça. Ressemble à un roman photo. Ressemble tout à fait à un roman photo. Qu'il y a là-dedans une touche italienne, et que comme dans les précédents films, certains précédents films, notamment Le Couvent de la Bête Sacrée et Sex and Fury, dans les précédents films de Suzuki, il y a toujours ce sous-texte chrétien, soit repris pour son fond de culpabilité, soit pour Jésus repris comme icône sadomaso. Je peux te dire que le mélange est particulièrement détonnant, quoi. Et je laisse nos audinotes libres de le découvrir ou pas.
On est loin de Jésus-Christ, un hippie de Johnny Hallyday, tu veux dire, en fait.
Ah non, non, c'est Jésus-Christ, un sado. Hein. Chez Suzuki, c'est ça. Hein. Voilà. Alors, Suzuki
comme
ne pouvait...
les motards.
Alors, voilà. Donc, à ma grande déception, Suzuki ne pouvait pas être là du fait de problèmes de santé pour s'expliquer, notamment sur certains de ses films. Il a quand même enregistré quelques modules vidéo à la demande des organisateurs de l'Étrange Festival, dans lequel il avait des positions très, comment dire, très dandy, en fait, très, très...
Non, mais alors voilà, non, mais non, blague à part, on rigole. On l'a exprimé ce qui se passe, mais les gens attendaient une réaction, une justification ou pas du tout?
J'étais pas à la projection de Vice et Supplice.
D'accord. Hein. Ouais.
Enfin, moi je le connais en vidéo. Mmh. J'ai en revanche vu la présentation qu'il a faite pour le pensionnat des jeunes filles perverses, dans lequel il ne parle pas du tout du film en tant que tel, et où il dit très simplement: pour moi, un film, c'est comme un feu d'artifice. À l'époque Edo japonaise, c'est-à-dire ça dure un quart de seconde. Et après, c'est fini.
Ah ben, c'est pas long.
C'est-à-dire qu'il disait texto, mes films, ils ont été faits à une certaine époque. Si le public les a pas vus en 74, 75, 79, eh ben tant pis pour lui. Et là, il se ravise et il se dit: ah ouais, mais alors là, quand même, je suis interviewé par des Occidentaux qui vont voir mes films, et finalement... J'aime bien ça. Alors, pour vous, qu'allez redécouvrir mes films en salle, je trouve ça très très bien. Pour les Japonais qui les ont ratés il y a 30 ans, eh ben, tant pis pour vous.
Ah oui, c'est... Zarbi, bon.
Voilà.
Posture morale...
Non, mais alors, après, c'est des très très grands débats sur la représentation de la femme dans le cinéma japonais. Et ce sera ma conclusion, qui n'est pas... L'Étrange Festival, mais qui est Cannibal Peluche.
Ah, quand même.
Cannibal Peluche, qui donc, jeudi 9 novembre, donc dans quasiment une semaine, à 20h30 au studio, fait son premier double programme. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il est important de voir les films en salle. Hélas, Cannibal Peluche, pour l'instant, ne les diffuse qu'en DVD, mais en salle. Cannibal Peluche espère très fortement, en fonction du nombre de spectateurs, pouvoir passer au 35 mm prochainement. Deux films, The Magic Blade et Enzo the Blade 2, L'Enfer des Supplices, qui n'a pas fini de susciter des débats moraux, justement, par rapport à la place de la femme dans l'imaginaire populaire japonais. Ce sont, en tous les cas, deux variations autour du film de sabre absolument passionnantes.
Merci et bravo, mais je suis quand même obligée de dire que, vu que tu m'as tendu une perche pour réagir... sur le pot-au-feu et la pipe, que j'avais trouvé particulièrement graveleux comme émission de Daniel Mermet, on est obligé de se poser des questions aussi, mais hors antenne, en tout cas pour l'instant, sur les masturbations, sur les images du Troisième Reich, forcément.
Ah oui, non, mais alors, pour le complètement. Moment. Alors, ceci dit, il est important de rappeler que dans le film, Vice et ses vices, qui est particulièrement extrême, quand même, je tiens à le dire, le personnage principal n'est pas jamais présenté de manière valorisante. D'accord. Non, non, ce qui est quand même très important. On est plus, entre guillemets, dans l'étude de cas tels que peuvent l'être, par exemple, en Occident, des films comme Maniac ou Henri, portrait d'un tueur en série, hein, toute proportion gardée. On n'est pas du tout dans l'apologie de quoi que ce soit.
D'accord.
Non, non, absolument pas. Hein.
Débat qu'on a vu avec Roberto Tsuko, par exemple. Eh ben, Ludo, bravo et merci. Que dire ? Il est temps de nous quitter. C'est triste, mais c'est comme ça. Encore merci à Jean-André, Françoise et Sylvie.
Merci à Paul Paye de nous avoir reçus.
Des repères de la Basse IGC. Merci beaucoup à Théo et à Bakary du collectif 76 contre les discriminations. On a rendez-vous le 11 novembre, pas ici à l'Apple Pie, mais directement au camping de la forêt de Monchon, lors de la journée porte ouverte. Et notre prochaine émission ici, ça sera à l'occasion de la semaine de la solidarité internationale, où on retrouvera Nicolas Perron du CERASI, qui organise cette semaine de la solidarité, où il se passe vraiment beaucoup de choses très intéressantes, avec notamment Manal Tamimi, qui est une fille formidable de Naplouse, qui en ce moment vit et étudie en France, et qui va venir donner à la salle Franklin, donc le 14 novembre, un témoignage avec sa meilleure amie, qui est une Israélienne dont, hélas, le nom m'échappe sur le moment, mais vous retrouverez toutes les infos sur le site de Radio Apple Pie. Elles vont parler toutes les deux de ce que ça peut être pacifiste israélienne et pacifiste palestinienne. Voilà, on les retrouve le 14 novembre à 18h à la salle Franklin. Et donc, Nicolas Perron sera là le lendemain avec Zachary Saillé, qu'on a rencontré tout à l'heure, qui est arrivé avec Sébastien de coup de pouce pour Daga directement du Mali, non sans mal, parce que les problèmes de visa ont été vraiment très très compliqués.
Jusqu'au dernier moment.
Comme on le sait, dans la France de Sarkozy, c'est pas facile pour un Malien de venir. Voilà. Et ça sera notre invité. Voilà. Merci à tout le monde. Merci à Dom et Coco. Merci à notre public nombreux et chaleureux.
Ouais.
On vous embrasse et pour conclure avec cette émission rebelle.
Brothers and sisters, the time has come for each and every one of you to decide whether you are going to be the problem or whether you are going to be the solution.
That's right.
You must choose, brothers, you must choose. It takes 5 seconds. 5 seconds of decision. 5 seconds to realize your purpose here on the planet. It takes 5 seconds to realize that it's time to move. It's time to get down with it. Brothers, it's time to testify, and I want to know,